tapé un titre qui aurait été « La laïcité expliquée à M. Sarkozy par ma fille ». Il y a pas mal de livres « Telle chose expliquée à ma fille ou à ma nièce ou à mon neveu », etc. Donc, je vais commencer par un souvenir parce que j'y repensais en pensant à cette conférence. J'avais soutenu une thèse de doctorat d'État à l'automne 1984 et cette thèse portait sur le protestantisme et la laïcisation de la société française au 19e et au 20e siècle. Effectivement, alors j'étais spécialiste d'histoire du protestantisme. Et quand j'avais commencé cette thèse, un peu naïvement, je me disais, bon, ben, sur la laïcisation de la société française, je vais trouver plein de choses, je vais trouver plein de travaux et je ferai une sorte d'état des lieux qui m'intéressera. Et moi, je vais donner un apport sur le protestantisme français. Et puis, je me suis aperçu en travaillant cette thèse, vous savez, à l'époque, les thèses de doctorat d'État, c'était 15 ans, hein, on y passait un grand partie de sa vie. Maintenant, heureusement, les thèses sont plus légères, on les fait en 5-6 ans. Je me suis aperçu que non, sur la laïcisation de la société française, bien sûr, je trouvais des livres sur la création d'écoles laïques, sur la loi de séparation des églises et d'État, etc. Mais pas d'ouvrage qui problématisait sur une longue durée la laïcisation de la société française. Et donc, je m'y suis attelé et j'ai essayé, moi, de théoriser cela et de proposer des perspectives. Et à la soutenance, donc c'était l'automne 84, le président de jury, qui n'était pas du tout protestant, c'était à Paris-Sorbonne qui est devenu Paris 4, bon, me dit « Ah, ce que vous avez fait est très intéressant, mais restez dans le protestantisme, ne vous engagez pas dans l'étude de la laïcité, ça n'intéresse plus personne. » Ça n'intéresse plus personne. C'était quelques mois après les grandes manifestations de mai-juin 1984 sur la défense de l'école libre. Et donc, pour lui, la laïcité était devenue un sujet obsolète. Elle avait perdu cette bataille. Et puis, évidemment, si on est ici, c'est que le pronostic ne s'est pas vérifié. Bon, encore que j'en reparlerai, il était à la fois faux et juste, son pronostic. Bon. Et que depuis, l'intérêt pour la laïcité, quand même, globalement, s'est développé. Intérêt social, pas besoin d'insister, je crois que c'est un enjeu fort en France depuis beaucoup d'années maintenant. Et intérêt scientifique, ça c'est moins connu. Intérêt scientifique à un niveau international. Depuis effectivement une vingtaine d'années, des colloques, des cours, des conférences, des thèses, des articles et des livres, des articles dans des revues savantes, des livres de différentes disciplines des sciences humaines, se sont un peu multipliés et partout. Pour ma part, j'ai été le co-rédacteur d'une déclaration internationale sur la laïcité signée par 250 universitaires d'une trentaine de pays. Donc ça montre bien l'intérêt, si vous voulez, à porter au niveau international. Et c'est pas un intérêt uniquement européen, c'est un intérêt évidemment nord-américain, mais aussi beaucoup latino-américain. C'est un intérêt aussi au niveau de pays asiatiques, bon, l'Inde, le Japon, des pays comme ça. Et évidemment aussi le monde musulman, avec beaucoup de débats qui se font, très contrastés bien sûr, sur la laïcité. Alors, le problème, c'est qu'il y a souvent une divergence entre le développement, si vous voulez, de réflexions de type universitaire, de type académique sur la laïcité, et puis les discours sociaux sur la laïcité. Et moi, je ne prends pas mon parti, disons, de cette dualité, du fait qu'on parle d'une certaine manière de la laïcité dans le discours social, et d'une autre manière assez différente, dans les colloques, dans les thèses et dans les cours au niveau universitaire. Et donc, mon propos un peu ce soir, c'est d'essayer de faire le pont entre les deux et de vous raconter un petit peu la laïcité, bon, en synthétisant évidemment et en faisant un panoramique. Bon, dans les colloques, on fera plutôt des zooms sur telle ou telle question. Là, je vais plutôt faire un panoramique. Mais quand même, l'ambition, c'est un petit peu d'arriver à faire que le discours universitaire et le discours social puissent se rejoindre quelque part. Et pour ça, je vais partir d'un classement, disons, assez simple que fait un de mes collègues, un juriste et sociologue italien qui s'appelle Alessandro Ferrari. Dans la mesure où cette distinction très simple me semble très intéressante et très féconde. Il distingue deux formes différentes de laïcité. Il distingue d'une part la laïcité comme dispositif juridique, mais un dispositif qui est à la fois social et juridique, disons. Les lois, les jurisprudences, c'est une production du politique, mais qui se diffuse sur le plan juridique. Et puis ce qu'il appelle la laïcité narrative, et bon, le terme de laïcité narrative est bien parce qu'il est assez neutre, et pour nous ça peut renvoyer aussi aux travaux de Paul Ricoeur, c'est-à-dire les représentations sociales de la laïcité, les diverses manières de se représenter la laïcité et d'en parler. Alors la laïcité comme réalité socio-juridique, c'est, selon la Déclaration internationale de la laïcité de ses 250 universitaires, elle s'articule autour de trois principes. Il y a trois principes principaux. Le premier principe, c'est la liberté de conscience, la liberté de religion et de conviction. Le terme d'ailleurs de liberté de religion et de conviction est un terme qui a acquis des noblesses au niveau international. On le trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on le trouve dans la Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales. C'est d'autant plus important que cette Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas seulement une déclaration de principe, elle a véritablement valeur juridique, puisque si vous estimez que votre liberté de conscience, que votre liberté de religion et de conviction est brimée par votre pays et que votre pays adhère au Conseil de l'Europe, ce qui est le cas non seulement des pays de l'Union européenne, mais d'autres pays, eh bien, si vous avez engagé une procédure dans votre pays, une procédure juridique, et que vous n'avez pas obtenu satisfaction, vous pouvez engager une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui va vérifier si, effectivement, la Convention est respectée, et qui, éventuellement, va pouvoir condamner l'État. Et il faut savoir que plusieurs États européens ont été condamnés pour non-respect de la liberté de religion et de conviction, et que la France, on ne sait pas aller jusqu'à une condamnation, parce que évidemment les États peuvent rectifier le tir après un premier avertissement, et que la France a reçu un avertissement à partir d'une plainte de l'Union des athées. La France, qui se veut pays très laïque, a dû rectifier le tir à partir d'une plainte de l'Union des athées, parce que la Cour européenne lui a fait comprendre qu'elle risquait d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le deuxième principe, c'est la séparation du religieux et du politique, la non-domination de la religion sur l'État et sur la société civile. Je dirais que par rapport à la terminologie traditionnelle qui existait bien avant la laïcité, de pouvoir spirituel, pouvoir temporel et distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, il faut faire un pas de plus. Il faut faire un pas de plus parce que si on est en régime de laïcité, il n'y a pas deux pouvoirs. Le politique est de l'ordre du pouvoir, la religion est de l'ordre de l'autorité. Alors, quelle est la différence ? Le pouvoir peut marcher à la force. Si vous désobéissez à une loi, vous pouvez être mis en prison. Vous pouvez être condamné. Il peut avoir une répression légitime de la part de l'État. En régime de laïcité, la religion ne marchera pas au pouvoir, elle ne marchera pas à la domination légitime. Elle marchera à l'autorité, c'est-à-dire qu'il faudra être persuadé de la vérité, de la véracité des dires de cette religion pour y adhérer. Si vous n'intériorisez pas, si ça ne vous convainc pas, eh bien vous êtes libre de ne pas appartenir à telle ou telle religion, de vous convertir d'une religion à une autre, de n'appartenir à aucune religion, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas parler de distinction de pouvoir temporel et de pouvoir spirituel, il faut aller plus loin, il faut dire qu'il y a séparation, et il y a séparation entre un pouvoir politique et des autorités religieuses, au sens strict du terme autorité. Et le troisième paramètre, le troisième aspect, c'est la non-discrimination, dit en langage moderne, disons la non-discrimination, avant on a parlé d'égalité, on verra peut-être parler de non-discrimination, c'est faire peut-être un pas de plus par rapport au terme d'égalité, la non-discrimination pour appartenance religieuse ou convictionnelle. Et alors, justement, le constat des gens qui ont rédigé et signé cette déclaration internationale sur la laïcité, c'est que beaucoup de pays ont, à ce niveau-là, un niveau consistant de laïcité socio-juridique. Beaucoup de démocraties modernes. Alors, bien sûr, ce niveau consistant de laïcité socio-juridique, suivant les domaines, suivant les pays, il est plus ou moins consistant, il est plus ou moins fort. Bon. Suivant aussi les trois aspects qu'on vient de définir, il peut être plus fort dans un aspect que dans un autre, etc. Bon. Mais finalement, quand on examine justement, quand on analyse et quand on différencie suivant les aspects, suivant les domaines, bon, on s'aperçoit qu'il y a des domaines où la France est plus laïque que d'autres pays, mais il y a d'autres domaines où la France est moins laïque que d'autres pays. Et donc, on est dans la comparaison. Et quand on essaye de faire cela sur un plan universitaire, sur un plan académique, on essaye de le faire sans jugement de valeur. Il ne s'agit pas de dire que ça serait la laïcité absolue qui serait le meilleur régime, etc. Il s'agit de comparer, de voir, etc. Et d'arriver à pouvoir classer les pays suivant les domaines, suivant les paramètres, etc. La laïcité narrative, c'est quand même quelque chose de différent. Et je crois que ce que je viens de vous dire permet très vite de le comprendre. C'est-à-dire que beaucoup de pays qui ont un niveau consistant de laïcité juridique ont une laïcité narrative pratiquement inexistante. C'est-à-dire que aussi bien la liberté de conscience et de religion et de conviction, aussi bien la séparation du politique et du religieux, aussi bien la non-discrimination pour raison d'appartenance religieuse, tout ça, ça existe. Et ça existe de manière assez consistante, mais on n'emploie pas pour autant le terme de laïcité. La tradition historique fait que ce terme n'est pas forcément employé, il n'y a pas de terme synthétique. Par contre, il y a des pays pour lesquels ce terme de laïcité est un terme fort, un enjeu social fort, un enjeu de discours fort. La Turquie, par exemple, comme vous le savez, est un pays où la laïcité, depuis longtemps, est un enjeu social fort, et la laïcité narrative est forte, sans que forcément il y ait une séparation. Il y a une séparation de l'État par rapport à la religion, mais il n'y a pas de séparation de la religion par rapport à l'État, puisqu'il y a une direction des affaires religieuses assez directive, finalement, et que l'islam n'est pas vraiment séparé de l'État, même si l'État lui-même est laïque et séparé de la religion. Et puis, comme vous le savez, il y a actuellement des débats en Turquie parce que la situation change et que la laïcité, qui a été une laïcité assez autoritaire, assez militaire même, est en train de subir l'épreuve de l'alternance, et c'est tout à fait passionnant à suivre parce que suivant que cette expérience turque sera réussie ou échouera, ça peut être exemplaire par rapport au monde musulman. En France, donc, la laïcité narrative est également quelque chose de fort, est également un thème fort, et évidemment, suivant les époques, elle est plus ou moins forte, et puis elle peut très vite changer de contenu. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que finalement, mon président de jury en 84, il n'avait pas complètement tort, parce que à l'époque, pendant les années qui avaient précédé, quand les gens parlaient de laïcité, ils parlaient essentiellement de la volonté qu'il n'y ait pas de subvention publique dans les écoles privées. Rappelez-vous, c'était ça le grand thème de la laïcité. Et quelqu'un qui est fort estimable, qui s'appelait Jean Cornac, qui dirigeait une fédération de parents d'élèves qu'on appelait la Fédération Cornac, parce qu'il a dirigé longtemps, a écrit un livre en 1965 qui s'appelle La laïcité, où il y a des tas de choses intéressantes, mais il y a quelque chose qui relue aujourd'hui tout à fait frappant, c'est qu'il dit que la loi de Bray est pire que les lois de Vichy. Et que la loi de Bray est une atteinte très blasphématoire à la laïcité. Bon, c'est ça le grand problème. Et c'est vrai que maintenant, socialement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des militants laïcs qui sont contre la loi de Bray, etc., mais socialement, quand on parle de laïcité, Si vous interviewez des gens, et on a fait plusieurs enquêtes auprès d'étudiants, auprès bon, de gens donc qui ont une certaine culture, qui ont un certain intérêt pour la question, ils ne vous parlent pas du tout de la loi de Gray, ils ne vous parlent pas du tout du problème des écoles privées, ils vous parlent d'autre chose. Donc effectivement, la laïcité narrative a changé de contenu. Mais le fait que la laïcité narrative n'existe pas ne signifie pas que les gens ne soient pas attachés à des formes de laïcité. Je vais prendre un exemple. J'ai été au Canada fin janvier et début février. Le nombre de Canadiens qui m'ont dit « Mais s'il y avait eu un discours du Premier ministre canadien, il n'y a pas de président, puisque le Canada, c'est la reine d'Angleterre, théoriquement, qui règne du Canada. Si le Premier ministre canadien avait fait un discours comme votre président l'a fait au Latran, qu'est-ce qu'on aurait été choqué ?» Et pourtant, le Canada ne parle pas de laïcité. Maintenant, le Québec, tout à coup, il y a un débat où le terme de laïcité devient un enjeu social fort. Mais normalement, on ne parle pas de laïcité au Canada. Il y a une séparation de fait, qui est depuis longtemps, qui a même précédé la séparation états-unienne, mais le terme n'a pas été employé, le terme n'est pas un enjeu social et on ne se trouve pas dans les discours sociaux. Il n'empêche que, tout à coup, le discours d'un président de la République laïque fait que les Canadiens disent « Mais qu'est-ce qui arrive ?» se révèle attaché, disons, à une forme de laïcité dont ils disent « Elle est peut-être menacée. » Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et puis, c'est encore plus compliqué parce que vous avez des termes anglais comme « séculariste »,« sécularisation », et qui, à la fois stricto sensu, notamment le terme de sécularisation, ne sont pas des équivalents. La sécularisation, pour les sociologues, n'est pas un dispositif socio-juridique. C'est l'état des mœurs, des comportements, des manières de vivre, etc., un peu éloigné de la religion dans une société donnée. Bon. Mais, en fait, dans l'usage social de ces termes, souvent, le terme de sécularisation est employé comme équivalent du terme de laïcité ou comme un peu un euphémisme du terme de laïcité. Et le terme de sécularisme, alors stricto sensu, dans un certain nombre de pays, en Inde notamment, ressemble au terme de laïcité. Donc, vous voyez, la laïcité narrative est quelque chose de différent de la laïcité socio-juridique. Elle est toujours plurielle, avec toujours un discours dominant, mais qui n'est pas forcément le même suivant les pays et les périodes. Et c'est tout à fait passionnant d'analyser cette laïcité narrative, son évolution, ses tensions, les conflits qu'il y a autour du terme, etc. Alors là où c'est un peu compliqué, c'est qu'en même temps, la laïcité est un sujet chaud. Et que, moi j'avais un collègue, maintenant il est mort, qui s'appelait Jean Bottero, hein, qui étudiait les Assyriens, étudiait la laïcité, c'est pas tout à fait la même chose par rapport à la société dans laquelle on vit. Quand vous étudiez les Assyriens, personne ne vous demande de vous engager pour telle ou telle cause concernant les Assyriens. Quand vous étudiez la laïcité, alors si je vais à l'étranger, on va me dire « Expliquez-nous pourquoi le foulard a été une affaire aussi importante et est devenue une affaire aussi importante en France. » En France, on me dira plutôt « Êtes-vous pour ou contre le foulard ?» Donc on réclamera un engagement. On réclamera un engagement, et c'est vrai que quand on est citoyen d'un pays, c'est difficile de rester désengagé par rapport à des enjeux sociaux qui est fort. Donc il y a une tension qui est très intéressante parce que on doit être à la fois dedans comme citoyen, mais on doit être un peu dehors quand même comme sociologue et comme historien pour pouvoir prendre de la distance, pour pouvoir essayer d'objectiver et d'analyser les choses avec une certaine gymnastique intellectuelle. Alors je vais le faire donc en faisant un parcours historique, mais évidemment en m'intéressant surtout à l'actualité, à la période la plus contemporaine, mais malgré tout en partant un petit peu de loin, parce que ça permet aussi de voir les choses plus froidement. Alors, je dirais il y a trois périodes. Bon, on va surtout insister sur la troisième, mais il faut quand même rappeler de manière très schématique, disons, hein, et je m'excuse à l'avance des raccourcis, mais rappeler quand même les deux premières périodes. La première période, donc, elle commence en gros en 1789, mais elle redémarre aussi en 1801-1802 avec la stabilisation, disons, que donne Napoléon Bonaparte. Parce que l'important d'une révolution, c'est ce qui reste quand la révolution est terminée. C'est ce que la révolution a apporté d'irréversible, si vous voulez. Donc la période un peu de construction de cette première période, c'est 1789, disons 1804, le Code civil des Français. Et puis la période où il va y avoir un basculement, c'est de 1882, la création de l'école laïque, la laïcisation de l'école publique plus exactement, à 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Donc une période, vous voyez, qui recouvre en gros le 19e siècle. Alors, un niveau de laïcité socio-juridique. Commençons par le 2, puisque au niveau du discours social, c'est souvent le 2 en France qui apparaît comme étant le point fort de la laïcité. Il y a, je dirais, une semi-séparation. C'est-à-dire que pour l'essentiel, l'État est déjà séparé, déjà indépendant. Le Code civil des Français 1804 ne fait aucune mention de la religion. Et le droit familial, qui était largement dépendant de la religion sous l'Ancien Régime, n'est plus dépendant de la religion. Le prêt à intérêt, qui était interdit alors par l'Église catholique, est permis par le Code civil, etc. Enfin, il y a un détachement de la législation par rapport à la religion. Il va avoir un petit retour en 1816 avec l'interdiction du divorce. Mais ça ne va pas aller plus loin. Malgré la volonté des gens de l'époque, de certaines personnes, de vouloir revenir à un régime de chrétienté, ça ne va pas plus loin. Donc l'État est déjà, pour l'essentiel, indépendant par ailleurs de la religion. Mais les religions ne sont pas séparées de l'État, et les religions ont une certaine officialité. Il y a un concordat avec le Vatican et un régime de ce qu'on appelle de culte reconnu, où les curés, les pasteurs et un peu plus tard les rabbins sont payés par l'État et sont considérés comme ayant une mission de service public. C'est-à-dire que justement la religion est associée au pouvoir de l'État. Elle est associée au pouvoir de l'État parce que la religion est considérée comme le fondement de la morale publique. Portalis, le conseiller de Napoléon sur ces questions, dit une morale sans religion, c'est comme une justice sans tribunaux. Les tribunaux donnent des sanctions dans ce monde-ci par rapport à la loi, et la religion doit donner des sanctions dans l'autre monde par rapport à la morale. Donc vous voyez, la morale, la loi est laïque, mais la morale reste religieuse, reste imprégnée de religion, reste à fondement religieux. Et c'est pour ça que le cours de religion, le cours de morale religieuse, est au centre de l'école publique, au fur et à mesure que cette école se développe. Donc les églises participent à l'ordre du pouvoir. Bon. Au niveau de la liberté de conscience, de culte et de religion et de conviction, il y a un contrôle de l'État sur ces cultes reconnus. Un contrôle assez fort. Bon, je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas le sujet de ma conférence d'aujourd'hui, mais pour donner un exemple, les évêques les pasteurs et les laïcs pour les églises réformées, par exemple, n'ont pas le droit de se réunir qui en assemblée d'évêques, qui en synode, sans l'autorisation du gouvernement. Bon, pour les protestants, une fois, on donnera l'autorisation, mais une fois au cours du 19e siècle, et pour les catholiques, jamais. Même les gouvernements considérés comme les plus cléricaux, les gouvernements de la Restauration, le Second Empire à ses débuts, etc., ne donneront jamais l'autorisation aux évêques de se réunir. Un évêque n'a pas le droit de se déplacer hors de son diocèse sans l'autorisation du préfet. Les encycliques du pape et tous les textes du pape n'ont pas le droit d'être vus en chaire si le gouvernement ne peut pas les recevoir, etc., etc. Il y a une semi-liberté, je ne dis pas qu'il y a un contrôle qui serait dictatorial, mais il y a une semi-liberté de conviction. On a le droit d'être indifférent en matière de religion, on a le droit de refuser les sacrements, on a le droit, bon, on n'est plus au chevalier de la barre qui a été tué pour ne pas s'être incliné devant le Saint-Sacrement, mais malgré tout c'est mal vu aussi d'être indifférent en matière de religion. Donc la liberté de religion et de conviction n'est pas complète. Quant au troisième, à l'égalité, disons, entre les cultes, au principe de non-discrimination, bien, il y a une distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus. Il y a des cultes non reconnus minoritaires, des dissidences du catholicisme, des petites églises protestantes, actives, assez actives. Bon. Quand dans les périodes calmes, ces églises sont tolérées, dans les périodes moins calmes, ces églises peuvent être réprimées. Ça arrive. Il y a des pasteurs qui ont passé Noël en prison, par exemple, parce qu'ils faisaient du prosélytisme alors qu'ils étaient membres d'un culte non reconnu et que la période était un peu chaude politiquement. De même, il y a des enterrements de libres penseurs à certains moments qui doivent se faire la nuit tombée, pas pendant la journée, etc., etc. Enfin, il y a malgré tout des discriminations en matière de religion. Donc, voilà pour la laïcité socio-juridique, encore une fois, de manière très très sommaire, très très schématique, mais pour vous donner un petit aperçu des constantes, disons, du XIXe siècle. Quant à la laïcité narrative, le thème de laïcité n'apparaît, le mot de laïcité n'apparaît que dans les années 1870-1880. Et le premier qui théorise le concept de nationalité, c'est Ferdinand Buisson, qui est à la limite du protestantisme et de la libre-pensée. Il a d'abord été protestant évangélique, ensuite il a été protestant libéral, et dans les années 80, disons qu'il est de culture protestante, il est malgré tout imprégné par un certain ethos protestant, mais il se veut libre-penseur. Et en fait, ça, en termes évidemment moins modernes, mais la définition qu'il donne de la laïcité ressemble pas mal à ce qu'a pointé donc cette déclaration internationale des 250 universitaires dont je vous parlais. L'État indépendant des cultes et des clergés, de toute imprégnation théologique, la liberté pour toutes les religions, il ne parle pas des convictions, mais... on peut dire que c'est une extension, et l'égalité entre les citoyens et entre les cultes. Donc on retrouve les mêmes paramètres. Mais les grands thèmes narratifs en fait, de cette période, ce n'est pas tellement le terme lui-même de laïcité qui, encore une fois, apparaît que tard à la fin de la période, au moment où on commence à basculer, c'est cléricalisme, anticléricalisme. C'est ce qu'on appelle le conflit des deux France. La France qui se réfère au baptême de Clovis comme étant le baptême de la France en construction, et la France qui se réfère aux valeurs de la Révolution comme des valeurs qui ont émancipé la religion. C'est ces deux France-là qui sont en conflit. Alors évidemment, ces deux minorités actives, la plupart des gens sont entre les deux France, mais ces deux minorités actives poussent les gens à choisir leur camp. Et des fois, il y a du cléricalisme d'État ou il y a de l'anticléricalisme d'État. La deuxième période donc, qui se façonne de 1882 à 1905 et qui, à mon sens, va durer jusqu'en 1968-1989. On va voir pourquoi il y a ce basculement à ce moment-là. C'est ce que j'appelle le second seuil de laïcisation. Alors, au niveau de la laïcité socio-juridique, vous avez là une séparation plus prononcée. Séparation des églises et de l'école, d'abord. Par laïcisation de l'école publique, qui devient neutre sur le plan religieux. Création de la morale laïque. Séparation des églises et de l'État, en 1905, ensuite. Autrement dit, les églises ne participent plus à l'ordre du pouvoir. En tout cas, en France métropolitaine. Dans les colonies, c'est différent, et ça va revenir un peu comme un boomerang dans la troisième période. Mais les églises ne participent pas à l'ordre du pouvoir, il y a une séparation plus prononcée, elle n'est pas absolue, les choses ne sont jamais absolues, mais elle est nettement plus prononcée que dans la première période. La liberté est plus grande. Il y a une assemblée des évêques dès mai 1906, c'est-à-dire quelques mois après le vote de la loi de séparation des églises et des États, qui, je rappelle, est promulguée le 9 décembre 1905. Enfin, promulguée le 11. Donc, les interdictions du concordat et des cultes reconnus sautent pour l'essentiel. Bon, il y avait des restrictions, par exemple, aux processions de l'Église catholique. Les restrictions sautent. Un certain nombre de choses comme ça. un curé ne pouvait pas être candidat aux élections municipales, ça saute, etc., etc. C'est-à-dire que les religions rentrent dans le droit commun et un certain nombre de limitations. Alors effectivement aussi les encycliques du pape, l'État n'a plus rien à y voir, n'a plus rien à en dire, etc., etc. Tout un contrôle disparaît. C'est a posteriori, s'il y a une atteinte à l'ordre public, que l'État va pouvoir sévir. Mais pas a priori, alors qu'avant, on était dans le contrôle a priori. Et c'est la période où il y a le moins de discrimination, cette période-là. Beaucoup moins, évidemment, que dans la première période, et moins que dans la période actuelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde est vraiment égal, il y a des majoritaires, il y a des minoritaires, et c'est très difficile qu'il y ait une complète égalité entre les majoritaires et les minoritaires. Mais disons, au niveau juridique, il y a une liberté légale. Bon, il y a par exemple des associations, un culte comme l'antoinisme, qui est une dissidence du catholicisme, vit totalement paisiblement pendant toute cette période. En 86, la commission parlementaire va le considérer comme une secte. On ne sait pas pourquoi, elle n'a pas donné de justification, mais l'antoinisme existe depuis le début du XXe siècle et pendant toute la seconde période, il n'y a jamais eu aucun problème et il n'y a jamais eu aucune répression de l'État et l'État était complètement neutre à son égard. Voilà. Donc c'est le moment en France où il y a le moins de discrimination pour raison de religion, globalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de débat, et notamment le grand débat c'est qu'est-ce que signifie la liberté d'enseignement. Alors d'abord, tout le monde n'était pas d'accord avec la liberté d'enseignement. Jules Ferry était très attaché à la liberté d'enseignement, mais il y a des laïcs qui voulaient le monopole de l'enseignement de la part de l'État. Ils n'ont jamais obtenu. Donc au niveau de la laïcité socio-juridique, la liberté d'enseignement est restée constante, mais elle a quand même subi quelques accrocs, puisqu'il y a eu une loi en 1904 interdisant aux congréganistes de pouvoir enseigner. De fait, cette loi a été rapportée 10 ans plus tard, en 1914, mais sans être vraiment abolie. Elle a été abolie que sous le Vichy. Et c'est pour ça que, si vous voulez, Cormeic considérait que la loi de Bray était pire que les lois de Vichy, parce que la loi de Vichy s'était bornée à enlever cette interdiction aux congréganistes d'enseigner, tandis que de Gaulle donnait, lui, des subsides très, très forts à des écoles privées sous contrat associé au service public. Bon. Mais évidemment, quand on dit que De Gaulle fait pire que Vichy, vous voyez bien qu'au niveau de la symbolique, ça va beaucoup plus loin que ces aspects techniques. Donc il y a un grand débat au niveau de la liberté d'enseignement, ce qu'elle implique, et justement, est-ce qu'elle doit être formelle simplement, ou est-ce qu'elle implique aussi que l'État s'engage à donner des subsides aux écoles privées sous contrat. Vous savez, c'est un des grands problèmes de la période. Et justement, la laïcité narrative va beaucoup s'accentuer sur ce problème, du moins à partir de 1948-1950 à peu près. Dans un premier temps, la laïcité narrative, c'est quand même d'abord la morale laïque. C'est quand même d'abord la morale laïque, on l'a un peu trop oublié maintenant. Et la morale laïque, elle parle beaucoup de solidarité, elle parle beaucoup de dignité de l'être humain, elle parle aussi beaucoup des bienfaits du progrès. Et en tout cas, jusqu'en 14-18, c'est un thème extrêmement important de la morale laïque, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord, d'harmonie, entre le progrès technique et scientifique d'un côté, le progrès moral et social de l'autre. Alors, cette harmonie n'est pas complète, et évidemment, il y a un débat politique sur la répartition du progrès. Et certains estimeront que cette répartition est injuste et qu'il faut l'améliorer. Et le mouvement socialiste aura beaucoup d'enseignants, disons, dans ses rangs. Mais, si vous voulez que, en tout cas virtuellement, il y ait une continuité entre le progrès scientifique et technique d'un côté et le progrès social et moral de l'autre part, tout le monde en est convaincu et ça peut être enseigné par la morale laïque de manière consensuelle, quelles que soient les opinions par ailleurs des gens. rappelle par exemple qu'au XIXe siècle, l'Église catholique bénissait les chemins de fer. Bon, l'Église catholique n'était pas du tout opposée au progrès. Elle était opposée quand le progrès mettait en question Dieu, etc., etc. Bon, il y avait un certain nombre de dissensus sur le plan scientifique. On va, l'an prochain, on va célébrer 150 ans de Darwin, de l'apparition de l'origine des espèces. Bon. Donc il y a eu effectivement des problèmes comme ça. Mais disons que le bon progrès, les bienfaits du progrès, c'est quand même une croyance assez largement partagée. Et je vous dis, il n'y a pas d'opposition frontale en soi là-dessus. Et puis, la guerre 14-18 commence, enfin, à partir des années 30, on met 10 ans à ruminer de la guerre 14-18, mais à partir des années 30, on commence à dire que c'est plus compliqué que ça. Et quand on lit les cahiers d'écoliers, les cours de morale laïque, on s'aperçoit que la morale laïque devient plus la morale élémentaire. Il n'y a plus toute cette grande annonce de la dignité de l'être humain, de la solidarité entre les humains. C'est un ton en dessous, en tout cas, et les bienfaits du progrès, on en parle quand même beaucoup moins. Et cléricalisme, anticléricalisme, le terme de clérical socialement diminue énormément. Quand vous faites des études de discours, vous voyez que on ne parle plus de cléricaux, même si les historiens auront des positions plus nuancées. Par exemple, Yves Delvoye a fait une étude des élections montrant que l'Église catholique continue à intervenir sur le plan électoral dans pas mal de régions. Mais on ne parle plus de cléricalisme au niveau du discours social. Du coup, le terme d'anticlérical devient un terme qui peu à peu prend une connotation négative, alors qu'il était revendiqué, si vous voulez, dans la période précédente. Et donc une tendance à réduire le terme laïcité à ce qui reste conflictuel, c'est-à-dire la question de l'école. Ce qui reste conflictuel parce que la question des relations Église-État n'est plus conflictuelle à partir de 1945. La laïcité est devenue une réalité constitutionnelle. Elle est devenue une réalité constitutionnelle à un moment où il y avait un gouvernement tripartite, communiste, socialiste, mouvement républicain populaire, c'est-à-dire un parti démocrate chrétien, où le président du conseil était démocrate chrétien. Et en 1945, l'année précédente, l'assemblée des cardinaux, archevêques et évêques avait dit que le terme de laïcité était un terme positif, à condition évidemment que ça ne soit pas compris de la manière stalinienne, bien sûr, que ça ne soit pas persécuté des églises. Donc tendance à ramener à ce conflit des subventions publiques, même pas de l'école laïque, parce que l'école laïque n'est plus attaquée par l'Église catholique. Elle a maintenant une légitimité, elle est d'ailleurs dans la Constitution. Dans la Constitution, on dit que l'État doit avoir une école laïque. Mais est-ce que la liberté d'enseignement signifie des subsides ou pas? C'est ça le grand problème. Et donc on a tendance à ramener le terme de laïcité au niveau narratif sur cette question. Et le grand débat aussi, c'est laïcité, laïcisme. Tous les gens qui sont, disons, des ralliés de la laïcité, souvent ils disent oui, la laïcité, mais non au laïcisme. Dans les milieux laïcs, on ne fait évidemment pas cette distinction. On en arrive au troisième seuil, à partir de 1968-1989. Ce troisième seuil, il se construit à ce moment-là. Bon. Pourquoi je parle de 68 ? Parler indifféremment du fait que cette année, c'est le 40e anniversaire. Parce que 1968 est le début de la crise des institutions qui ont fait partie du pouvoir de l'État en remplacement un petit peu de la religion. Alors c'est réducteur de dire en remplacement, mais si vous voulez, pour dire les choses de manière abrupte, schématique et évidemment, il faudrait nuancer. Disons, l'école est devenue obligatoire, les vaccinations sont devenues obligatoires au moment où les services religieux devenaient facultatifs et libres. Bon. Autrement dit, au moment où les églises perdaient leur caractère d'institution d'État, d'institution socialement obligatoire, l'école, la médecine par certains aspects, devenaient des institutions socialement obligatoires. Alors que ce n'est pas du tout le cas au début du XIXe siècle. Bon, encore que la France, là-dessus, sur le dispositif institutionnel, soit en avance sur ses voisins, puisque l'exercice illégal de la médecine en France date d'une loi de 1803, alors que dans les pays anglo-saxons, qui sont pourtant plus avancées sur le plan technique au niveau médical, ça date des années 1850. Et justement, en France, il y a une production institutionnelle de l'école, une production institutionnelle de la médecine par le politique. Beaucoup plus que dans d'autres démocraties modernes. C'est-à-dire que la science, la connaissance, le savant moral qu'est le médecin deviennent des légitimations, si vous voulez, pour des pouvoirs qui se légitiment plus ou qui se légitiment moins par la religion. Donc, les crises de l'école, de la médecine, vont avoir une signification plus troublante, disons, en France que dans d'autres pays. Alors, elle commence par des utopies. Hein. Vous avez l'utopie de la société sans école en 68, vous avez l'utopie de l'antimédecine en 68. Quand ces utopies vont retomber, qu'est-ce qui va rester? Il va rester du consumérisme scolaire, où les gens vont paper entre les deux écoles suivant leurs intérêts, non plus suivant des convictions personnelles, mais suivant ce qui leur semble le mieux pour leurs enfants, et puis du consumérisme médical, où ils vont également essayer de voir entre différents médecins, voir entre la médecine allopathique et la médecine, des médecines parallèles, etc. etc. Bon. Alors, le consumérisme, le terme est dépréciatif, mais moi je l'emploie dans un sens neutre, parce que le consumérisme, c'est à la fois, si vous voulez, la perte de déférence à l'égard des institutions, l'instrumentalisation de ces institutions par l'individu, instrumentalisation qui fragilise l'institution et qui pose des problèmes, mais en même temps, c'est l'exercice par l'individu de sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire qu'il ne délègue plus cette responsabilité aux agents institutionnels. Il estime que c'est lui qui est l'instance de responsabilité. Il estime d'ailleurs, c'est ce que la société lui dit, qu'il est libre et responsable. Donc il veut exercer cette responsabilité. Et pour exercer cette responsabilité, il va instrumentaliser les institutions. Ce qui est très difficile, évidemment, pour les institutions, puisqu'elles ont toujours des missions de service public. Et en même temps, elles n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient auparavant. On parle de droit des élèves, on parle de droit des malades, etc. etc. Le rapport de force change énormément. Alors, par exemple, on le voit avec la loi Veil de 1975. La loi Veil de 1975, par certains côtés, c'est une loi de laïcisation. C'est une loi de laïcisation des mœurs. La législation concernant l'avortement s'éloigne de normes de certaines religions. Et en même temps, quand vous lisez les documents de l'époque, c'est plus l'institution médicale ou certains médecins qui sont critiqués que les religions elles-mêmes. Pour vous prendre un exemple, le professeur Millet, qui était donc un médecin catholique, qui lui-même, pour ses convictions personnelles, était contre l'avortement, mais qui était pour le fait qu'il y ait une loi qui permette l'avortement. Vous avez deux tendances chez les féministes de l'époque. Vous avez la tendance réformiste de Gisèle Halimi qui fait alliance avec le professeur Millet. Et puis vous avez la tendance plus radicale qui dit non, il ne faut pas faire alliance. Pourquoi? Pas parce qu'il est catholique, mais parce que c'est un médecin et c'est un homme. Donc des féministes ne font pas alliance avec un homme, pire avec un médecin. Et dans les discours de l'époque, ce n'est pas le fait qu'il soit catholique qu'on lui reproche. Ce n'est pas son appartenance religieuse. C'est son genre, son sexe et le fait qu'il soit médecin. Bon. Pourtant, cette loi, elle est assez emblématique de ces trois paramètres de la laïcité. La séparation s'accentue, puisqu'il y a laïcisation au niveau des mœurs, mais il y a possibilité d'un motif de conscience, d'une clause de conscience pour les médecins qui considèrent l'avortement comme un meurtre, donc respect de la liberté de conscience et de religion et de conviction. Et le dernier mot est à la femme, ce qui, effectivement, est aussi conforme au principe de non-discrimination. Donc, je résume, là encore, je schématise, mais pour vous montrer comment on peut, justement, suivre le déroulé. En 1983, vous avez la création, par François Mitterrand, du Conseil de bioéthique. Premier Conseil national de bioéthique. Et, là encore, quand vous étudiez la bioéthique, surtout le débat aux États-Unis, le grand débat, c'est est-ce que la bioéthique va être l'affaire des médecins ou est-ce que ça va être l'affaire de la société de manière plus globale, bien sûr, avec les médecins dans le coup, mais pas seulement les médecins. Et le choix français, c'est effectivement de faire un comité où vous avez à la fois des médecins, des chercheurs, des praticiens, etc., mais aussi des juristes, mais aussi des chercheurs en sciences humaines, mais aussi des représentants de sensibilités religieuses. Là, c'est très intéressant parce qu'ils sont là en tant que membres de la société civile. Autrement dit, on n'est plus dans une opposition société religieuse, société civile, société religieuse qui essaye de surplomber la société civile et la société civile qui essaye de s'émanciper de la société religieuse. Non, on est dans un cas de figure où il y a débat, où il y a de l'incertitude, et dans cette incertitude, bon, ben, évidemment, il y a l'avis d'experts, il y a l'avis de compétences, mais il y a aussi, si vous voulez, une prise en compte des différentes convictions, en tout cas, qui participent à la réflexion, qui participent à la réflexion au même titre que les autres. Bon, alors, je ne m'appesantis pas sur l'école, mais c'est aussi le passage d'une école, si vous voulez, qui était duale, parce que l'école républicaine, vous aviez l'école du peuple, quand on parlait d'école laïque comme l'école du peuple, c'est l'école du peuple au sens strict, c'est-à-dire c'est pas l'école de la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle va dans les petites classes des lycées, elle va dans les lycées, ou elle va à l'école privée, mais même si elle ne va pas à l'école privée, elle va dans les petites classes des lycées, elle va dans les lycées, elle n'a pas de contact avec le peuple. On passe à l'école démocratique de masse où, en gros, vous avez la même école à peu près pour tout le monde, sauf ceux qui vont dans l'école privée, mais vous avez la même école pour tout le monde. Avec tous les problèmes qu'il y a quand on passe d'une école élitiste et à côté d'une école populaire à une école pour tous, qui est la même pour tous. Ce qui se passe aussi, c'est que la croyance dans les bienfaits du progrès en prend un très rude coup. Elle en prend un très rude coup, pourquoi ? Parce que si les guerres avaient déjà apporté un coup, elles n'avaient pas enlevé complètement cette croyance dans les bienfaits du progrès. Pourquoi ? Parce que vous pouviez opposer un mauvais progrès qui était facteur de mort et un bon progrès qui était facteur de vie. Et les mauvais progrès, c'était des gens qui étaient moralement dévoyés, ou c'était des régimes totalitaires, ou c'était la bombe d'Hiroshima, bon, le progrès guerrier, le progrès, etc. Et au contraire, vous aviez le bon progrès. Et c'était l'époque où on distinguait, on opposait nucléaire militaire, nucléaire civil, alors même que dans les projets de l'État, les deux avaient partie liée. Mais le nucléaire civil, c'était le bon progrès. Le nucléaire militaire, c'était le mauvais progrès. La bioéthique montre bien que maintenant, c'est des problèmes qui se posent de par le progrès, même à des gens qui sont les plus conscients possibles. Et qu'on n'est pas uniquement dans les médecins dévoyés par le stalinisme ou le nazisme, etc., qui évidemment sont repérables moralement, si vous voulez. Là, on est dans des gens qui essayent en conscience de réfléchir et qui sont dans l'incertitude. Et puis, alors, bon, je passe rapidement, parce que là, c'est pas la peine d'insister, les problèmes d'environnement, les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de biodiversité, etc. Alors, on peut dire dans un certain sens que c'est un progrès encore scientifique, puisque la science se met elle-même à réfléchir sur ses conséquences et à réfléchir sur ses applications techniques et à dire halte-là à certaines applications techniques. Mais, d'une part, vous voyez bien qu'il y a une déconnexion du progrès scientifique par rapport au progrès moral et social, et d'autre part, bon... La science, c'est pas la vérité. La science, c'est le savoir le plus élaboré d'un temps. Et le savoir le plus élaboré, il a des incertitudes. Et sur le réchauffement climatique, vous savez bien qu'il y a débat, par exemple. Pas débat sur le réchauffement lui-même, mais sur ses causes. Est-il dû à l'action de l'homme, à d'autres conséquences, etc. Bon. Et on est donc dans l'incertitude. Bon. Et cette incertitude, elle est socialement très difficile à assumer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les médias vous racontent ça par une narration apocalyptique. C'est-à-dire qu'on va de catastrophe en catastrophe et ça ira de mal en pis. Et alors ça, c'est extrêmement intéressant, enfin, c'est éprouvant pour le citoyen et pour l'individu, mais c'est extrêmement intéressant pour l'historien parce que c'est la sortie du projet des Lumières. Le projet des Lumières, il a démarré quand la science, qui était une activité d'amusement, si vous voulez, est devenu quelque chose dont tout à coup on s'est dit c'est efficace, ça permet de connaître les lois de la nature et en les connaissant, de les maîtriser. Et effectivement, on les a connues, on les a maîtrisées. On les a tellement maîtrisées qu'à un moment donné, on a cru même qu'on pouvait s'affranchir des lois de la nature. Par certains côtés, on s'en est affranchi. Et maintenant, on est dans une période... Par exemple, le Concorde et le cygne aussi qu'on passe dans une période. Le Concorde, c'est merveilleux. Vous allez en 3 heures aux États-Unis, etc. Sauf que ça coûte tellement cher, ça bouffe tellement de l'énergie, etc., qu'on a arrêté les frais. Et donc, là, c'est quand même un signe où tout à coup, il y a un truc où il y a des possibilités, mais on ne peut plus finalement les réaliser parce qu'il y a trop d'effets contre-productifs. Donc il y a une sorte de sortie sociale du projet des Lumières, comme Gaucher parle de sortie sociale de la religion. Et il ne s'agit pas de dégommer les Lumières, comme évidemment certains le font de manière polémique, etc. Ces projets, ils ont donné des réussites incontestables, bon, même si évidemment on pourrait passer longtemps à jauger les réussites et les échecs. Bon. Mais toujours est-il que, effectivement, l'utopie, disons, qui était derrière les bienfaits du progrès, et dans un certain sens, la morale laïque, la construction de la laïcité, ça a été une sorte de démocratisation de ces utopies des Lumières et de ce projet des Lumières. Eh bien, il est en train de changer. Et ça change aussi, évidemment, au niveau socio-économique. Il y a quelque chose qui est tout à fait frappant et qui permet de le dire assez rapidement, c'est l'usage social du terme de réforme. Pendant longtemps, vous aviez, c'était clair, semblait-il, il y avait une partie de la conservation, une partie de la réforme, et la réforme, c'était progressiste, donc ça allait dans le sens du progrès, ça allait dans le sens d'un mieux-être, d'un mieux-vivre, etc. Alors, il y a des gens qui pouvaient dire, oh là là, attention, les traditions, la conservation de la société, ça on change trop rapidement, on change trop, etc. Mais voilà, il y avait ceux qui voulaient qu'on aille pas trop vite et ceux qui voulaient qu'on aille plus vite vers des lendemains, malgré tout, qui étaient radieux, et pas seulement les lendemains du communisme, mais même les lendemains, disons, de la société libérale. Et puis maintenant, la réforme, c'est quoi? C'est de passer de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans, puis après à 41 ans, puis après à 42 ans. Bon, c'est plus du tout la même chose. Alors, on vous dit, cette réforme est nécessaire, sinon on va dans le mur. Peut-être, il y a débat, évidemment, sur... Mais, finalement, la gauche est aussi dépourvue face à cette modification que la droite. Bon, et c'est pour ça aussi qu'elle se trouve un peu en crise idéologique. Bon, parce que, finalement, les gens se mettent à refuser ou à se méfier des réformes, parce que c'est plus le mieux-être et le mieux-vivre. Ça devient plus difficile et il faut réformer pour faire face à une réalité qui est désagréable. Et donc, vous voyez, on est dans des changements. Et là, quand mon président de jury, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette anecdote, disait en 1984 que tout le monde allait se désintéresser de la laïcité, le pronostic n'était pas incrédible, si vous voulez, parce que effectivement, on pouvait penser que la laïcité, son projet pour l'essentiel, était réussi, donc quand quelque chose devient acquis, on s'en soucie plus tellement. Bon. Que les limitations, disons, de la laïcité avaient été données par l'opinion publique, justement, en 84, quand elle avait refusé une réunification qui, au demeurant, était assez souple, école privée sous contrat, école publique, bon. On était après Vatican II et pour l'opinion publique, les deux écoles n'enseignaient plus de France différente et donc elles ne voyaient pas la raison. Au contraire, elles voulaient pouvoir faire du consumérisme scolaire. Bon. Et donc, on pouvait se dire que effectivement, le temps de l'usage social du terme de laïcité, de la référence à la laïcité, était un peu terminé. Et puis, il y a eu 89 et la première affaire de Foulard. Alors, j'ai fait exprès de retarder, si vous voulez, l'évocation de cette affaire, pour une raison bien simple, pour faire comprendre que la laïcité rencontrerait des problèmes, islam ou pas islam. Faire la laïcité narrative a tendance à faire, si vous voulez, la compatibilité de l'islam et de la laïcité comme étant le grand problème d'aujourd'hui. Non. Le problème de la déconnexion entre progrès scientifique et progrès moral et social, ça existerait, islam ou pas islam. Le problème du fait que le terme de réforme a changé de sens, ça existerait, islam ou pas islam. Bon, tout un certain nombre de choses existeraient, islam ou pas islam. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre sous le boisseau, si vous voulez, et réduire au silence des problèmes qui sont des problèmes réels et des défis auxquels la laïcité doit s'affronter. Mais Il est clair que, évidemment, la première affaire de foulard a été un symbole de quelque chose de nouveau qui s'ajoutait à cela. Alors, 1789, il faut se rappeler, c'est l'année de la chute du mur de Berlin aussi, l'année de la fin de la guerre froide, et où on va prendre conscience donc de la mondialisation et de la globalisation, qui là aussi est un autre défi. Bon. C'est l'année du bicentenaire de la Révolution française, avec le fait que ce bicentenaire a été confié à Jean-Pierre Goude, homme de spectacle, homme de publicité, etc. Et donc, ça a été fêté d'une manière qui était singulièrement apolitique, alors même que le gouvernement était de gauche, mais en même temps que, idéologiquement, ça générait toute une réflexion où est revenu sur la scène ce qu'on appelait l'universalisme républicain, le citoyen abstrait, etc., etc., un certain nombre de thèmes. Alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que vous avez en 1988 un grand dictionnaire critique de la Révolution française qui va être la référence de tous les intellectuels qui est fait par François Furet et Mona Ouzouf. Et l'universalisme n'est pas une entrée, c'est même pas dans l'index. L'universalisme républicain, ils ne connaissent pas en 1988. Un an plus tard, tout le monde va se référer à ça pour ou contre, ou etc. Mais ça va. Bon. Donc vous voyez, là aussi, la laïcité narrative peut tout à coup s'emparer d'un thème et que ce thème devienne extrêmement important, alors qu'un an avant, la pensée qui se voulait réflexive, qui se voulait scientifique, etc., le méconnaissait un peu. Bon, donc il y a ça. Il y a la loi sur le droit des élèves qui. Et le 14 juillet 1989, par le gouvernement Jospin, ministre de l'Éducation nationale, Jospin est ministre de l'Éducation nationale, et qui entre tout à fait dans la logique de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire du changement de rapport de force au niveau institutionnel, les élèves maintenant ont des droits reconnus par la loi, et puis, en février 89, et ça, si on loupe ça, on ne comprend rien à la première affaire de foulard, il y a eu la fatwa de l'imam Khomeini contre Salman Rushdie, qui a donné à une certaine vision de l'islam, ou à un certain islam, une vision, une représentation politique, si vous voulez, et une représentation mettant en danger la liberté de penser, etc., etc. Et je ne pense pas, parce que il y avait déjà des foulards à l'école en 88, il y avait même des professeurs qui avaient des foulards dans les écoles françaises en 88. Et tout le monde faisait silence là-dessus, c'était pas dans le débat social. Bon, je pense que cette affaire de Creil, qui au départ était dans un collège à banlieue parisienne, n'aurait jamais eu l'importance nationale qu'elle a eue s'il n'y avait pas eu la fatwa de l'imam Khomeini, mais aussi le bicentenaire de la Révolution française, mais aussi la loi Jospin sur les droits des élèves qui a été ressentie par les tenants de l'institution école comme une menace, et on est dans le processus qui va amener la destruction du mur de Berlin, c'est quelques semaines après, mais enfin on est tout à fait dans ce processus. Donc il y a un ensemble qui crée une mutation, mais finalement où un certain nombre de choses se préparaient depuis longtemps là. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous retrouvez dans un premier temps laïcité socio-juridique et laïcité narrative comme vraiment distinctes. La laïcité socio-juridique, c'est la décision du Conseil d'État en novembre 89, le port de signes religieux est compatible avec la laïcité à condition qu'il soit discret, pas ostentatoire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas accompagné de prosélytisme à l'école, qu'il ne mette pas en cause les programmes, les horaires de cours, la discipline. C'est tout à fait compatible. Voilà, ça c'est la laïcité socio-juridique. La laïcité narrative, dès cette époque, de manière dominante, elle dit que le foulard n'est pas compatible avec la laïcité scolaire. Vous avez très nettement le dissensus là, qui est là. Mais alors, ce qui est nouveau, c'est que bien sûr, il y a un manifeste, bien sûr, etc. Mais surtout, quand vous étudiez la presse de l'époque, il y a une bataille iconographique qui est incontestablement gagnée par les tenants de l'interdiction du foulard. C'est-à-dire que vous avez par exemple le Nouvel Observateur qui en 5 numéros fait 3 numéros avec une jeune fille à foulard et un foulard hard, je dirais. Bon. C'est contre normalement toutes les lois du marketing de faire en 5 semaines la même couverture. Et pourtant, ils l'ont fait et ça marchait. Bon. Alors, je vous passe l'Express, le Point, etc. Mais j'ai choisi exprès le Nouvel Observateur, d'abord parce que c'est celui qui en met le plus, et c'est un journal qui se veut de gauche. Bon. Vous avez clairement un dissensus entre, qui va durer 15 ans, entre laïcité socio-juridique et laïcité narrative. La laïcité narrative ne fait pas, évidemment, que réclamer l'interdiction du foulard. Elle promeut un certain nombre de thèmes. Je vous dis qu'on ne trouvait pas avant. Le citoyen abstrait, donc thème révolutionnaire, mais je y revenir encore. Mais la laïcité exception française, que je ne trouve pas avant 89, l'opposition république-démocratie, etc. Alors, prenons le citoyen abstrait. C'est très intéressant parce que c'est en plein notre sujet sur la diversité. Effectivement, la révolution a eu une notion du citoyen abstrait. Cette notion, elle a un peu imprégné la mentalité française et elle a une conséquence très intéressante, c'est qu'en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, le droit de grève a été accordé 20 ans avant le droit de se syndiquer. On a d'abord donné aux gens le droit de faire grève et 20 ans seulement après le droit de se faire syndiquer. Ça explique d'ailleurs beaucoup de luttes, la manière dont se passent les luttes sociales en France. Pourquoi on a eu cette difficulté à reconnaître le droit de se syndiquer? Parce que, avec le syndicat, l'appartenance collective devient une dimension forte de l'individu. Et de certains individus, évidemment, ceux qui syndiquent et ceux qui font des luttes syndicales. Et les luttes syndicales, vous savez, elles sont vives à ce moment-là. Donc, on n'est plus dans la notion du citoyen abstrait à partir du moment où les syndicats sont. Et la culture syndicaliste n'est pas du tout la culture du citoyen abstrait. C'est quand même ce qu'il faut se rappeler. Et la laïcité va mûrir en France, si vous voulez, en étant totalement hors de cette culture du citoyen abstrait, puisque justement un des grands thèmes de la laïcité et de la morale laïque, c'est la solidarité. Et que la solidarité, c'est de dire, vous avez reçu de vos ancêtres, alors avec des accents un peu confucéens, vous avez reçu de vos ancêtres un certain état de civilisation, vous ne pouvez pas, donc vous avez une dette vis-à-vis de vos ancêtres, vous ne pouvez pas donner à ces ancêtres le retour de cette dette, puisqu'ils sont morts, pour la plupart, eh bien, il faut donner cette dette sociale aux plus démunis. Vous avez un devoir envers les plus démunis, parce que vous avez reçu un état de civilisation, et que cet état de civilisation, il est mal partagé, et donc il y en a qui sont des laissés pour compte de cet état de civilisation, et donc vous avez des devoirs envers ces gens-là. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le citoyen abstrait, on est dans le concret, et en France, la France est un des grands pays où il y a ce qu'on appelle un différentialisme compensateur, c'est-à-dire où très tôt on s'est soucié de donner plus à ceux qui avaient moins. Et donner plus à ceux qui avaient moins, c'est tourner le dos à une représentation du citoyen abstrait. Donc ce différentialisme compensateur, bon, par exemple à la fin du 19e siècle, la loi sur l'assistance médicale gratuite, bon, ça veut dire que le patient n'est pas un citoyen abstrait. Le patient est un être concret qui a de l'argent ou qui n'en a pas, et s'il n'en a pas, il a le droit d'être soigné. Bon, donc, voilà. Bon, et tout ça, c'est très lié à la morale laïque et à la doctrine de la solidarité. Dans les années 1980, l'arrivée de la gauche au pouvoir accentue cet aspect-là. Quand on crée les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, qu'est-ce qu'on a? On a une stratégie inégalitaire par équité sociale. Et on va donner plus de moyens dans certaines zones. Alors, évidemment, on ne parle pas, on ne dit pas qu'on fait ça à partir des différences culturelles, mais on dit ça qu'on fait à partir de zones géographiques qui ne sont pas du tout les zones du citoyen abstrait. Les zones du citoyen abstrait, c'est les départements. C'est ce qu'a fait la Révolution française. Bon. Là, les ZEP, et puis, alors j'ai noté, parce que je ne sais pas par cœur, les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine, des territoires ruraux de développement prioritaire, etc. Tout ça, c'est des nouvelles classifications géographiques qui correspondent à des couches sociales et qui correspondent déjà dans les années 80 aussi à des populations socioculturelles. Un certain nombre de collèges de ZEP ont 90% d'élèves musulmans. Donc on est dans la diversité culturelle prise en compte par les politiques publiques avec une difficulté à le dire, donc par le biais de la localisation géographique. Mais on est tellement dans cela que dans ce dispositif juridique et administratif, qu'il y a des députés qui râlent, qui disent que le principe d'égalité, justement, si on des citoyens abstraits mis en question, et ils déposent un recours devant le Conseil constitutionnel qui, en 1995, dira qu'il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité. Mais cette manière de faire au niveau de la laïcité, le différentialisme, il a été aussi pris en compte par la laïcité. Parce que qui a finalement été les pères fondateurs de la loi de 1905? C'est Aristide Briand, c'est Jaurès, c'est Francis de Pressensé. C'est des gens qui ont une culture syndicaliste. Alors évidemment, au départ, ils ne raisonnent pas du tout de la même manière en matière de religion et en matière de syndicat. Et pourtant, dans les débats, ils vont être amenés à faire des analogies. Et c'est l'article 4 qui, malheureusement, n'est pas très connu, mais qui est un article fondamental dans la mesure où c'est l'article qui a créé le plus de débats au moment de la loi de séparation, parce que les socialistes et la droite étaient pour, et les radicaux socialistes et les radicaux étaient contre. Bon, cet article, il dit qu'on va remettre, puisque le grand problème, c'est à qui on va remettre les églises qui sont propriétés publiques, des dizaines de milliers d'églises. Eh bien, on va les remettre aux gens qui se conformeront aux règles générales d'organisation de leur culte. C'est-à-dire qu'on ne le remet pas localement aux gens qui sont majoritaires, on le remet localement aux gens qui sont, pour les églises catholiques, aux gens qui sont en communion avec leur évêque. Et c'est tellement vrai que, puisque le pape a refusé la loi de 1905, les curés qui voulaient quand même appliquer la loi de 1905 n'ont pas eu droit à voir les églises. Les curés qui voulaient appliquer la loi n'ont pas eu les églises. On a remis, parce qu'ils ont été désavoués par leur évêque a nommé un autre curé, et c'est l'autre curé qui lui désobéissait à la loi, qui ne l'appliquait pas, qui a eu l'église. La République est allée jusque-là, à désavouer les curés qui respectaient la loi au profit des curés qui ne respectaient pas, parce que c'est eux qui étaient conformes à la doctrine de leur église. Et donc, vous voyez, on voit là l'appartenance collective comme une dimension de l'individu. On a le droit de ne pas être catholique, mais si on est catholique, ça a des contraintes. La République est allée jusque-là, et c'est quelque chose. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que cet article 4, c'est très logique. Où il a été trouvé? Il a été trouvé dans les articles de séparation américaine, dans les articles des États séparés américains. Il a été trouvé dans, quand il y a eu création d'une église libre en Écosse, dans la loi qui a permis à cette église d'exister. Bon, autrement dit, il est d'origine anglo-saxonne, cet article. Et la laïcité, la loi de 1905, a pu fonctionner grâce à un article d'origine anglo-saxonne. Alors évidemment, je ne dis pas que la loi de 1905 est dans l'esprit du modèle anglais, mais on a transplanté un élément de ce modèle dans le modèle français, et c'est cette symbiose qui a permis à la laïcité de fonctionner. De même, la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans les colonies, parce qu'on disait que justement la situation était différente, etc. Alors bon, bonne ou mauvaise manière de gérer la diversité culturelle, mais en tout cas, la République a considéré qu'elle n'était pas dans l'universalisme abstrait. Quand l'Alsace-Moselle est revenue en France, on a gardé le système des cultes reconnus, du concordat et de l'école primaire confessionnelle et des cours de religion dans le secondaire. On n'a pas appliqué ni la loi de 1882 ni la loi de 1905. Et bon, on a dit que c'était transitoire, près d'un siècle après, ça dure toujours. Et là, alors, on parle de différentialisme cognitif. C'est-à-dire différentialisme qui reconnaît à une identité infra-étatique le droit d'avoir une différence au niveau de la loi. Bon, ça va loin. Autrement dit, ça correspond à ce que les Français appellent très souvent communautarisme. Vous avez un communautarisme territorial où vous avez des gens en Alsace-Lorraine qui ont des lois différentes du reste de la population française. Et quand on vous dit, mais c'est quand même un peu illogique, ça pourrait changer, etc., on vous dit, ah mais la majorité des Alsaciens mosellans sont pour ce système. Bon, alors, outre qu'il faudrait vérifier, là il y a quand même une prise en compte d'une entité infra-étatique qui est quand même tout à fait étonnante si on prend justement l'idée de l'universalisme républicain où il y a l'individu et l'État et où il n'y a pas de corps intermédiaire légitime entre l'individu et l'État, légitime sur le plan juridique, légitime sur le plan politique. Donc vous avez effectivement cette prise en compte. Vous avez aussi le fait que les gens qui sont en liaison avec Genève, là, bon, alors c'est une question que je n'ai pas étudiée, mais enfin, quand vous allez à Genève, on vous en parle, vous avez un cimetière juif qui est en France, mais qui a une porte d'entrée sur la Suisse, parce que les règles sont plus souples en France qu'en Suisse, et donc des juifs genevois vont se faire enterrer en France en entrant par la porte qui donne l'ouverture sur la Suisse. Bon. La France étant plus accommodante à une spécificité de ce cimetière, bon, ça vaudrait le coup d'étudier ça de plus près, je ne l'ai pas fait. Bon. Mais depuis 1975, vous avez des carrés musulmans qui sont pris en compte. L'important étant que pour un musulman décider de se faire enterrer en France, ça veut dire qu'il renonce à se faire enterrer dans le pays de ses ancêtres, et donc c'est une acculturation très forte à sa situation de musulman français. Bon. Vous avez des repas sans porc dans des cantines, des écoles, des prisons, des hôpitaux, mais en 1903, c'est l'époque de Combes, c'est l'époque la plus dure de la laïcité française. Vous avez une circulaire rappelant qu'on ne donne pas de la viande le vendredi dans les cantines scolaires, qu'on donne du poisson. Bon. Acculturation là aux catholiques, repas sans porc, acculturation aux juifs et aux musulmans. Bon. Vous avez les autorisations d'absence dans la fonction publique, etc. Autrement dit, vous avez plein d'aspects de la laïcité juridico-sociale ou juridico-culturelle qui ne sont pas pris en compte par la laïcité narrative. On n'en parle pas. Et je dirais même il y a une construction sociale du fait de ne pas en parler. Je vais vous donner l'exemple de l'Alsace-Moselle, parce qu'il est très intéressant. Bon. L'Alsace-Moselle, qui en parle? Bon, alors, on est discuté avec la journaliste du Monde, elle va faire peut-être un reportage là-dessus, parce que justement, c'est quand même un peu étonnant ce silence. Bon. Mais, on n'en parle pas. Et, c'était un évêché, Strasbourg. Bon. Tout à coup, l'Église catholique veut transformer Strasbourg en archevêché. Selon le concordat, il faut un vote du Parlement français pour transformer Strasbourg en archevêché. Panique dans le Landerneau parlementaire. C'était sous Balladur. Personne, des communistes à la droite la plus dure, personne ne voulait débattre là-dessus. Pourquoi? Parce que débattre, c'était passer, justement, faire passer la question de l'Alsace-Moselle dans la laïcité narrative. C'était montrer qu'il y avait une partie de la France qui vivait en régime concordataire, en régime de culte reconnu, avec des prêtres, des pasteurs, des rabbins payés par l'État, etc., etc. Du coup, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que ça a été un décret de Balladur, un décret du Premier ministre, qui a autorisé le passage de l'évêché en l'archevêché. C'est illégal, complètement illégal. Mais comme il n'y a eu aucun recours devant le Conseil constitutionnel, évidemment, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais voilà ce que j'appelle un silence social construit. Bon. Autre petite anecdote, mais significative, bon, j'ai été membre de la commission Stasi, donc la commission nommée par le président de la République, Jacques Chirac, pour réfléchir au principe de laïcité. Une fois, on arrive à une commission, bon, on a un papier, bon, on avait souvent des papiers d'information ou d'associations qui voulaient donner leur point de vue, et donc on rangeait ça pour faire de la documentation. Bon. On nous dit, non, ne rangez pas, c'est pas de la documentation, c'est ce qu'on doit dire sur l'Alsace-Moselle. Ah bon? Eh bien, on nous avait écrit, c'était M. Daniel Hoffel, député, qui nous avait écrit ça, ce qu'il fallait dire sur l'Alsace-Moselle. Et Stasi nous dit, oui, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que pensent les Alsaciens mosellans. Bon, ça s'est passé comme ça pour aucun autre sujet, c'était invraisemblable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la majorité de la commission a marché. Donc là aussi, c'est un silence, si vous voulez, construit socialement. Donc, il y a eu un discours, si vous voulez, qui ne correspondait pas à la laïcité au niveau socio-juridique, mais qui fonctionnait parce que c'était le discours de la laïcité narrative. Le problème de ce discours, c'est notamment qu'il oblige à raconter l'histoire de façon fausse. Bon, je vais vous donner là aussi très rapidement deux exemples. Le premier exemple, c'est en 2005, donc centenaire de la loi de séparation, l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, réédite le rapport d'Aristide Briand. Bon, seul problème, c'est qu'ils ont supprimé un chapitre, et le chapitre qu'ils ont supprimé, c'était le chapitre sur les laïcités à l'étranger. Autrement dit, bon, ben, on peut toujours parler de laïcité exception française, mais quand ça ne marche pas, ben, on supprime le chapitre du rapport Briand qui était sur les laïcités étrangères. En 2006, l'année suivante, le Haut Conseil à l'intégration propose une charte de la laïcité. Alors, il fait tout un argumentaire, et dans cet argumentaire, il dit que la loi de 1905 a été une loi très très bien, et qu'elle a étonné le monde, et qu'il y a eu des... on l'a suivi. Bon, alors, il donne une série d'exemples. À mon avis, ces exemples sont tous faux, mais je vais parler de celui qui, à mon avis, est le plus faux. Il donne trois exemples. À mon avis, les trois sont faux. Mais le plus faux, c'est le Mexique. Parce qu'ils disent que le Mexique a imité la loi française de 1905. Le problème, c'est que la séparation des églises et de l'État au Mexique, elle date de 1861. Elle a été confirmée en 1874. Et cette loi de 1874, justement, Aristide Briand, dans son rapport, la cite très longuement et dit « c'est un modèle de laïcité, il faut que la France s'en inspire ». Donc, alors, il y a une solution, je vous la livre. Je l'ai dit aux Mexicains, ça leur a beaucoup plu d'ailleurs, c'est que les Mexicains sont les gens les plus intelligents du monde, et en 1874, ils se sont dit, voyons, imaginons ce que les Français vont faire en 1905 et suivons leur exemple. Autre exemple, si vous voulez, on oppose l'Allemagne à la France sur le financement des cultes. Parce qu'en Allemagne, l'État recueille, si vous voulez, ce qu'on appelle l'impôt ecclésiastique. Mais il faut bien voir, cet impôt ecclésiastique n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous mettez que vous êtes protestant et que vous payez l'impôt ecclésiastique protestant, très bien. Vous mettez que vous êtes catholique, vous payez l'impôt ecclésiastique catholique, très bien. Vous mettez que vous êtes ni protestant ni catholique, vous ne payez pas l'impôt ecclésiastique. Et avec l'Allemagne de l'Est, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, ne payent pas l'impôt ecclésiastique, puisqu'évidemment, en Allemagne de l'Est, ils n'avaient pas l'habitude de payer. Alors, on va dire, oh là là, c'est incroyable, c'est... Bon, à un certain niveau, c'est vrai, c'est pas du tout la laïcité française, parce que ça fait participer, disons, les églises et l'État à quelque chose de commun, etc. Mais, c'est pas si éloigné, enfin, il faudrait pas croire qu'en France, ça soit le contraire. En France, qu'est-ce qui se passe? En France, vous donnez 1000 euros à une église, vous avez 750 euros de moins d'impôts. Vous avez 75% qui vous est enlevé de vos impôts. Hein. Alors j'ai dit 1000 euros exprès pour vous encourager à être généreux, mais si vous donnez 100 euros, évidemment c'est 75 euros. Bon, si vous n'êtes pas imposable, évidemment vous êtes de votre poche. Bon, c'est un problème aussi ça. Mais c'est quand même finalement le citoyen allemand. Il payera 1000 euros de plus sur ses impôts, il paiera 1000 euros de plus sur ses impôts s'il déclare qu'il est protestant. Bon. En France, il donnera 1000 euros à son église, mais il aura que 250 euros qui seront sortis de sa poche, puisqu'il aura 750 euros d'impôts de moins. Donc finalement... Alors, ce qui est intéressant dans le système français... c'est que justement ça a l'air moins officiel, puisque si vous voulez, vous donnez à une autre association d'intérêt public, vous allez aussi avoir une déduction fiscale. Donc il y a moins d'officialité, mais sur le plan financier, on peut vraiment comparer. Hein. De même, les églises, en France, bon, vous avez des églises... dans des toutes petites communes où il y a très peu de gens qui vont à la messe ou qui sont là, etc. Bon. Moi, dans mon Limousin natal, vous avez des églises où vous avez tous les 6 mois une religieuse qui vient faire, pas une messe, elle ne peut pas, mais une assemblée sans prêtre. Bon. Pourquoi elle vient tous les 6 mois faire une assemblée sans prêtre? Bien sûr, pour voir les gens, mais aussi parce que la loi dit qu'il faut qu'il y ait une messe tous les 6 mois, sauf guerre, etc., pour que l'église ne soit pas désaffectée. Donc l'église n'est pas désaffectée, alors que la plupart des gens prennent la voiture et vont à la messe ailleurs et qu'il y a très peu de gens dans le village. Et la commune doit réparer l'église. C'est un débat au conseil municipal parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, etc. Bon. Donc, vous avez une séparation, mais une séparation qui coûte cher. Bon. En Angleterre, vous avez une église d'État qui est propriétaire de ces églises, qui doit les entretenir, bon, sauf des monuments du patrimoine, etc. Mais vous avez des églises désaffectées à cause de la désaffection de la pratique religieuse. Bon. Et quand vous discutez avec un pasteur anglican, ils vous disent finalement, le modèle français, j'aimerais bien. Bon. Donc vous voyez, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que le dit le narratif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Parce que tout à coup, voilà, maintenant on se trouve dans une laïcité narrative tout à fait différente avec les discours de Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est que là, le discours narratif dominant a à la fois gagné et perdu. Il a gagné, il a eu deux victoires, il a eu deux défaites. Il a eu deux victoires. La première victoire, c'est le 15 mars 2004 avec la loi, ou plutôt la loi et la circulaire. Parce que je vous rends attentif au fait que la loi parle des signes et des tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, mais c'est la circulaire qui dit que les foulards, les kippas, etc. sont des signes et des tenues, etc. Autrement dit, vous pouvez très bien, par une autre circulaire, normalement, dire que non, les foulards et les kippas ne sont plus des tenues qui manifestent sensiblement. Vous ne changez pas la loi, vous changez la circulaire. Bon. Actuellement, ça serait difficile, parce que toute l'analyse narrative a mis ensemble la loi et la circulaire. Mais rappelez-vous, la circulaire, elle a été laborieuse à élaborer, il y a eu plusieurs trucs. Luc Ferry, qui était ministre de l'Éducation nationale, voulait qu'on interdise la barbe comme signe ostensible, etc., etc. Et en fait, c'est la circulaire qui interdit des signes précis, c'est pas la loi. Mais, bon, incontestablement, ça a été une victoire, et d'autant plus une victoire que la rentrée suivante s'est faite dans le climat des terroristes irakiens qui avaient enlevé deux journalistes français, et donc ça a fait un consensus, en tout cas sur le fait qu'on n'allait pas changer la loi par un chantage de terroristes. Donc la loi est appliquée. Bon, là aussi, on pourrait faire toute une conférence là-dessus, sur les avantages et les inconvénients, peu importe. Ce qui m'intéresse ici, pour aller vite, c'est ça a été une victoire, disons, du discours narratif, laïcité, dite républicaine, exception française, tout ce que vous voulez. La deuxième victoire, ça a été le fait que, tout à coup, il y a eu une application beaucoup plus restrictive de la loi de 1905. Des choses qui, pendant 90 ans, n'avaient pas fait problème, et qui tout à coup se sont mises à faire problème. Je prendrai deux exemples, un exemple qui concerne le protestantisme, un autre qui concerne l'islam. L'exemple qui concerne le protestantisme, c'est les colonies de vacances, tout à coup, qui n'ont plus de fonds sous prétexte qu'elles étaient confessionnelles, alors que ça avait été déclaré depuis des décennies et des décennies, les mouvements confessionnels touchaient des subventions, parce qu'ils avaient un service d'intérêt public, parce qu'il remplissait une fonction d'intérêt public. Et quand ça avait été contesté à la Chambre des députés en 1947, le ministre avait expliqué que c'était pas le caractère confessionnel qui était subventionné, c'était l'intérêt public, et c'était passé, et la discussion s'était arrêtée là, et ça n'avait plus été remis en question. C'est remis en question depuis ces 10 dernières années. Une application de la loi, donc, qui change. Bon. Autre application de la loi qui change, les baux amphithéotiques pour un prix symbolique. Là encore, le gouvernement du Front Populaire, il fait les chantiers du cardinal ou des églises nouvelles parce qu'il y a des déplacements de population, parce qu'il y a des nouveaux quartiers, etc., sont construits sur des terrains qui sont cédés pour un prix tout à fait symbolique pendant 99 ans. Bon. Là encore, pas de problème, et il y a, semble-t-il, plus de 1000 églises qui se sont construites comme ça. Bon. Dernièrement, bon, on a fait la même chose du coup pour des mosquées, recours du mouvement de M. Bruno Maigret, le NMR, les tribunaux administratifs ont dit que c'est contraire à la loi de 1905. C'est une pratique qui se fait, je vous dis, depuis les années 30, et qui s'est faite notamment sous le gouvernement du Front Populaire, qui n'était pas spécialement clérical. Application beaucoup plus restrictive de la loi que l'application qui était faite depuis des décennies et des décennies. Donc là, deux victoires, effectivement, d'une interprétation dure de la laïcité, mais dont on peut se demander, du coup, ce qu'il en est de l'égalité entre religions. Hein, étant donné que certains profitent du fait qu'ils étaient là en 1905, en métropole, et donc qu'ils ont des églises, voire des temples et des synagogues, en moins grande proportion, mais pour certains qui leur ont été remis, et que d'autres donc n'avaient pas de lieu de culte à cette époque, et donc ne peuvent pas avoir des conditions où on facilite leur lieu de culte. Mais il y a eu deux défaites. La première défaite, ça a été le débat sur la parité. Les arguments contre la parité, danger de communautarisme, sinistre cohabitation de ghetto, etc., etc. Et le débat a duré plus de 15 ans, puisque la première demande date de 1982. Elle concernait les municipalités, et à l'époque, le Conseil constitutionnel avait retoqué le projet de loi qui avait été voté par le Parlement. Et en 1999, on a changé la Constitution, et du coup, l'opposition du Conseil constitutionnel n'avait plus lieu d'être puisque la Constitution était changée, et en 2000, il y a eu la loi sur la parité. Alors, comme vous le savez, cette loi sur la parité, elle est appliquée de manière plus ou moins inégale, et elle est d'autant plus appliquée de manière plus ou moins inégale que, justement, en 1982, la loi sur les municipales a été retoquée par le Conseil constitutionnel, que commencer par mettre des femmes dans les conseils municipaux, ça permettait aux femmes de faire des carrières politiques, etc. On sait très bien qu'il y a tout un itinéraire pour faire carrière politique, et que tout à coup, alors faire la parité au niveau législatif, on ne le fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà une grosse défaite, puisque le citoyen redevient sexué, je dirais, puisqu'il avait été de fait sexué pendant un siècle, et la France est le pays où la différence entre le droit de vote des hommes et le droit de vote des femmes est la plus longue. Les autres démocraties, en général, c'est 30 ans, en France, c'est un siècle. Bon. Donc pendant un siècle, le citoyen frais, en fait, n'était qu'un homme. Bon. Le fait qu'il devienne réellement un citoyen frais, c'est-à-dire qu'il ait l'un ou l'autre sexe, était en 44-45 une avancée, et maintenant il faut le resexualiser, si vous voulez, le resexuer pour obtenir la parité, puisque on n'arrivait pas, sous l'égide du citoyen abstrait, à faire que les femmes aient des responsabilités politiques. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que si ça s'était fait sans loi sur la parité, très bien. Mais le problème, c'est que le citoyen abstrait redevenait un homme, et uniquement un homme. Et que ça, c'était plus supportable. Deuxième, alors, ça c'est la première défaite, mais à l'époque, il y a deux rapports officiels, un du Conseil d'État, un du Haut Conseil d'intégration, qui dit qu'il faut nommer une autre autorité de lutte contre les discriminations. Le gouvernement Jospin refuse, qui fait la loi sur la parité, refuse de faire la C'est Chirac qui fait la halle en 2005, peu après la loi de 2004. On se demande d'ailleurs si la loi de 2004 n'a pas été aussi le verrou, si vous voulez, qui a débloqué la situation pour la création de la halle. La halle, haute autorité de lutte contre les discriminations, ça veut dire qu'on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des discriminations, et donc qu'il n'y a pas des citoyens. Il y a des citoyens qui sont plus égaux que d'autres, pour des raisons de couleur de peau, pour des raisons de sexe, pour des raisons d'handicap ou de non-handicap, pour des raisons d'âge, etc., etc., pour des raisons qui peuvent être diverses. Et la HALDE intervient directement en matière de laïcité. Elle intervient contre une extension de la loi de 2004. Elle a par exemple pris un avis comme quoi les mères de famille qui avaient des foulards pouvaient être accompagnatrices de sorties scolaires, alors qu'un certain nombre de gens disaient qu'elles collaborent à un service public, donc elles ne peuvent pas avoir de foulard. Bon, il a dit c'est de la discrimination. Et la HALDE a rendu aussi un arrêt. Quelqu'un qui est censé appartenir à une dite secte n'a pas le droit d'être mis à la porte de son travail à cause de cette appartenance à une dite secte. Donc elle a mis aussi un frein à une législation spécifique ou à une représentation spécifique des gens qui sont dans des mouvements qualifiés de sectes. Donc, deux victoires, deux défaites. Bon. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un changement au niveau de la laïcité narrative ces dernières années. C'est-à-dire que le terme, tout à coup, diversité, a pris le sens de diversité culturelle, diversité ethnique, minorité visible, tout terme qui choque en France, mais en fait, le terme de diversité est un euphémisme pour parler de minorité visible. Pays anglo-saxon, on parle volontiers de minorité visible. En France, tout de suite, ça choque. Mais quand on parle de diversité, c'est bien de ça qu'on veut dire. Et ça remplace quoi? Ça remplace immigrés. Quand vous dites, quand on dit, les médias disent qu'il faut des candidats issus de la diversité, ça veut dire des descendants d'immigrés ou des immigrés, mais descendants maintenant, souvent deuxième ou troisième génération. Bon. Alors, évidemment, c'est pas le Pérou dans la mesure où on pourrait avoir une conception de la diversité, où la diversité c'est la totalité, c'est-à-dire que chacun est un élément de la diversité. Tandis que là, on pourrait dire de certaines manières, il y a les normaux et puis il y a ceux qui sont issus de la diversité. Mais un pays n'est jamais un pays de saints et de saintes. Bon. Et c'est quand même une étape très importante de ne plus parler d'immigrés et de parler de diversité. C'est la manière française de parler de minorité visible. Après tout, chacun a le droit d'avoir son vocabulaire, chaque nation a le droit d'avoir son vocabulaire. Disons que je suis pour la paix sociale comme je suis pour la paix des ménages, et donc si le terme de diversité permet de faire ça paisiblement, pourquoi pas la diversité. Donc, et ça, c'est très important parce que quand on parle de diversité, on n'est plus dans la problématique du citoyen. Ça veut dire que de même que le citoyen est sexué, de même le citoyen a une couleur de peau et on s'aperçoit que le citoyen abstrait, il était toujours blanc. Et comme il était un homme. Et donc voilà, il n'était pas si abstrait que ça. Et c'est ça le problème, si vous voulez. S'il était réellement, si vous voulez, il peut avoir un citoyen abstrait derrière le guichet d'une administration, parce que vous avez derrière le guichet d'une administration des hommes et des femmes, des noirs, des blancs, des jaunes, etc. Mais dès qu'il y a des lieux de pouvoir, dès qu'il y a des lieux plus importants, comme par hasard, vous n'aviez plus cette diversité. Et c'est pour ça que du coup, le citoyen abstrait en prend un certain. Alors, là-dessus arrive Nicolas Sarkozy comme président de la République. Alors, c'est extraordinaire parce que tout à coup, alors les lignes bougent et quelqu'un comme moi, on était en train de faire la critique d'une laïcité dite républicaine et tout à coup, je me retrouve face à une laïcité un peu religion civile à l'américaine, si vous voulez. C'est-à-dire face à quelqu'un qui dit le Dieu transcendant dans le cœur de chaque homme, discours de Riad, ou qui dit les racines essentiellement chrétiennes de la France, discours du Latran. C'est-à-dire que on a l'impression d'une sorte de jeu de ping-pong où vous aviez d'un côté une laïcité narrative qui privilégiait le citoyen abstrait, et du coup il y avait des tas de choses sur lesquelles on faisait silence, et notamment donc ce problème de la diversité, et là maintenant quelqu'un qui prend acte certainement de la diversité, hein, en tout cas c'est ce qu'il dit, Ariane il a parlé d'une politique de la diversité, mais qui veut sauvegarder si vous voulez le lien social par un recours à une transcendance qui soit s'imposerait naturellement à chacun puisque un Dieu transcendant serait au cœur de chacun, soit bon, parce qu'on sait bien que c'est pas vrai, qu'il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a etc. Mais disons, c'est ce qu'il dit, la morale du curé ou du pasteur, c'est quand même mieux que la morale de l'instituteur. Autrement dit, même si tout le monde n'y adhère pas, c'est mieux. Bon, là, c'est revenir exactement au 19e siècle, parce que au 19e siècle, vous aviez le droit d'être indifférent. Mais c'était quand même socialement mieux de croire. Et c'est la religion civile américaine. Eisenhower a une définition très, très bonne de la religion civile en disant « Nous, on croit un Dieu, n'importe lequel, mais on croit un Dieu. » Alors, c'était évidemment, en plus, dans le contexte de la guerre froide, face à l'Union soviétique, considérée comme athée, etc. etc. Bon. Mais ce Dieu n'importe lequel, c'est effectivement un peu typique de la religion civile américaine, dans la mesure où la religion civile américaine, c'est un pays qui était, dès l'origine, très pluraliste, et donc où le Dieu n'était propriété d'aucune église, mais il pouvait être un Dieu qui bénit la mérite dans son ensemble et qui la légitime politiquement, etc. Autrement dit, vous avez dès le départ aux États-Unis une sorte d'instrumentalisation politique de Dieu qui se fait dans des sens différents, parce que la religion civile américaine, c'est des fois Lincoln, c'est des fois Martin Luther King, Puis d'autres fois, c'est Eisenhower, d'autres fois, c'est George W. Bush, etc. Les sens sont divergents. Mais c'est quelque chose qui imprègne un peu dans un pays où il y a beaucoup d'immigration tout le temps et qui sert certainement à assurer un certain lien social. Le problème de la France, c'est que justement, elle n'est pas du tout dans cette conjoncture. À la fois parce que ce n'est pas un pays qui a une histoire religieuse très pluraliste, ou en tout cas le pluralisme a tout le temps été pourchassé et persécuté, les juifs et les protestants notamment, dans l'histoire. Bon. Et donc c'est un pays assez monocolore. Bon. Donc c'est quand Sarkozy parle des racines essentiellement chrétiennes, et puis après, évidemment, confond un peu ses racines avec le catholicisme, c'est bien cet état de fait dont il parle, mais on n'est pas dans le cas de figure américain. Et puis, les racines de la France sont essentiellement doubles, c'est-à-dire que vous avez aux États-Unis une continuité au niveau des mythes fondateurs entre les pères pèlerins qui ont fondé l'Amérique anglaise, disons, au XVIe siècle, et la guerre d'indépendance du XVIIIe, si vous voulez, qui a fait suite à un réveil et où les Lumières étaient très déistes et sont amalgamés avec ce réveil, etc. Et donc, dans la déclaration d'indépendance américaine, Dieu est l'auteur des droits de l'homme, c'est ce qu'il est dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sacré inaliénable, puisqu'ils viennent de Dieu. Bon. Donc il y a une continuité, si vous voulez, entre les deux mythes fondateurs des États-Unis, les pères pèlerins d'une part et l'indépendance d'autre part. Bon. Tandis que la France, vous avez deux racines complètement doubles. Vous avez effectivement le baptême de Clovis comme racine mythique, bon, d'une France qui n'existait pas, mais peu importe, on est dans le mythe, bon, dans le mythe fondateur. Bon. Mais aussi, l'autre mythe fondateur, c'est la Révolution française. C'est le mythe fondateur de la République. Et la République, en France, c'est plus qu'un régime. C'est quelque chose qui est très lié à l'identité nationale. Si vous voulez, l'identité nationale, maintenant, est républicaine. Elle n'est pas monarchique, constitutionnelle, comme peut l'être nos voisins, etc. etc. Bon. Donc, et ce second mythe fondateur, il se fait dans le conflit, qu'on le déplore ou pas, peu importe, c'est un fait historique qu'on ne peut pas enlever, il se fait dans le conflit entre religion et modernité politique. Bon. Et donc, si vous voulez réconcilier les deux France, vous pouvez pas le faire en disant les racines sont essentiellement chrétiennes et en mettant l'impasse sur les autres racines. C'est-à-dire que tout de suite, la Croix a fait un sondage, et la Croix n'est pas suspecte d'être spécialement anticléricale. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que 49% des Français approuvaient Sarkozy et 49% désapprouvaient quand il parlait des racines essentiellement chrétiennes. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait? Il refait les deux France. Il refait les deux France. Et c'était prévisible en plus, parce que si ses conseillers avaient vu ce qui s'était passé au niveau du 1500e anniversaire du baptême de Clovis, vous aviez eu là un sondage fait par Le Monde et qui avait donné exactement les mêmes résultats. Il y avait autant de Français qui étaient pour la célébration du baptême de Clovis que de Français qui étaient contre. Vous aviez, bon, il y avait un peu plus d'indécis, mais vous aviez 45-45. Et on retrouve, c'est ça qui est très intéressant, on retrouve les mêmes deux France équilibrées, si vous voulez, au niveau quantitatif, avec les déclarations de Sarkozy au Latran. Bon. Autrement dit, la laïcité française ne peut pas avoir de religion civile. Elle ne peut pas avoir de religion civile républicaine parce qu'il y a trop d'impasse et trop de silence qui est fait et que c'est un discours incantatoire qui correspond à la réalité. Et elle ne veut pas avoir de religion civile à l'américaine parce que en France, Dieu n'est pas l'auteur des droits de l'homme. Les droits de l'homme se sont faits dans un conflit entre modernité politique et religion. Donc la France est condamnée à la laïcité, mais finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise condamnation que ça, parce que si on reprend les trois principes de la laïcité, c'est une frustration réciproque, c'est-à-dire que les croyants n'ont pas tout ce qu'ils veulent, les incroyants n'ont pas tout ce qu'ils veulent, chacun doit faire place à l'autre pour que l'autre puisse exister. Et finalement, c'est peut-être comme ça qu'on peut faire société. Je vous remercie.
Donc, un temps de questions. Si vous arrivez à parler assez fort, ça serait bien et ça éviterait de faire circuler le micro. Si ça ne marche pas, j'irai vers vous avec le micro.
Je voudrais revenir sur la laïcité narrative. Depuis quelques années, il existe dans ce domaine des penseurs, des écrivains, des philosophes qui s'intéressent à la laïcité spirituelle ou à la spiritualité laïque avec un certain nombre d'ouvrages. Alors, peut-être que c'est dû aussi à la progression des pensées écologiques. Notre rapport à la nature qui peut amener à ce que la pensée laïque aussi s'investisse sur un domaine de spiritualité tout en des athées comme des agnostiques qui sont intéressés par la démarche spirituelle mais tout en se considérant toujours agnostiques et athées. C'est-à-dire que maintenant, même dans l'univers des agnostiques et des athées, certains sont intéressés dans une démarche spirituelle qui sépare de la question théiste ou déiste de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut se sentir, on peut cheminer dans une démarche spirituelle tout en étant athée ou agnostique. Que pensez-vous de ces nouveaux courants assez récents, avec quelques repères écologiques, depuis 5-6 ans, cet avènement de cette pensée de la laïcité spirituelle?
Oui, alors, là, il y a une... Il y a deux choses, parce que d'un côté, bon, ces courants sont, si vous voulez, enrichissent, on pourrait dire, le paysage socio-religieux ou socio-spirituel, et ils prennent place assez logiquement dans une certaine individualisation de la religion. Bon, individualisation de la religion qui fait que les gens ne sont plus autant liés que par le passé à des organisations religieuses. Encore qu'il y a toujours eu un certain quant à soi, et quand on parlait de religion populaire, on parlait bien aussi d'une religion qui était un peu à distance des institutions. Bon. Mais là maintenant, disons que l'autonomie spirituelle des gens est peut-être plus forte, justement, comme j'ai expliqué, parce que les religions sont dans l'autorité, elles sont plus du tout dans le pouvoir. Bon. Donc dans cette individualisation, c'est assez logique qu'il y ait des gens qui soient, disons, un peu un pied dans la spiritualité, un pied dans l'agnosticisme, et dans la. Encore que, comme je vous l'ai dit, Buisson était déjà, à sa manière, qui était assez différente, mais quand même, il parlait de foi laïque, etc. Là où je crois qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas spécifique à la laïcité, cette individualisation de la religion. On le trouve même dans des pays où vous avez des religions officielles, etc. Parce que, justement, ces religions officielles n'ont plus d'aspect contraignant dans les démocraties modernes. Et donc, il faudrait trouver un autre terme, parce que là, le terme de laïque signifie agnostique, en quelque sorte. Et c'est signifie agnostique comme choix personnel. Bon. Alors que le terme laïque au niveau social peut signifier un certain agnosticisme, mais un agnosticisme, disons, arbitral, c'est-à-dire que la laïcité n'a pas à choisir le camp de la religion ou le camp de l'anti-religion. En ceci, elle sera arbitre, et donc on pourra dire, par certains côtés, qu'elle sera agnostique. Mais c'est tout à fait différent, parce qu'elle sera agnostique pour pouvoir permettre tous les choix possibles aux citoyens. Bon. Tandis que là, c'est un choix personnel agnostique, donc c'est pas la laïcité au sens d'une totalité arbitrale, c'est une option convictionnelle parmi d'autres, si vous voulez. Une option convictionnelle qui se trouve à la frontière, pour moi, du spirituel et du non-religieux. Donc ça, c'est une nouvelle configuration qui prend place, effectivement, qui a un certain impact social, c'est clair, celui duquel moi j'écoute ce qu'ils disent, je les lis, etc. Ça m'intéresse. Bon. Mais Je ne voudrais pas qu'on confonde ça avec la laïcité comme règle du jeu social, si vous voulez, bon, effectivement, faisant l'arbitre entre les différents joueurs. Là, c'est, ils sont des joueurs dans le jeu social. Historiquement, c'est quand même le 17e et surtout le 18e et la Révolution française qui ont dissocié en France la religion et l'État. Vous avez eu pendant des siècles un État chrétien, hein, une chrétienté, où il y avait certes une distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, mais comme je l'ai expliqué, cette distinction n'empêchait pas qu'il s'agissait de deux pouvoirs et que ces deux pouvoirs étaient très liés, que la légitimité politique du roi, c'était le sacre qu'il avait à Reims, et que s'il n'était pas sacré, il n'était pas légitime. Donc la religion était nécessaire aux politiques. L'Église catholique était une puissance économique et qui ne payait pas l'impôt, mais qui pouvait donner de l'argent au roi si elle décidait de donner. Ça a d'ailleurs créé beaucoup de querelles, si vous voulez, pareil. Et que le politique, justement, essayait de contrôler et d'intervenir dans les affaires de cette Église. S'il y a eu, par exemple, la papauté à Avignon, c'est parce que Philippe le Bel est intervenu dans les affaires de l'Église catholique. Bon. Alors, quand... si vous voulez, Nicolas Sarkozy, par exemple, raconte l'histoire des relations entre la France et le Saint-Siège comme si tout baignait dans l'huile. Après, effectivement, il a des jugements négatifs sur la laïcité parce qu'on ne comprend pas pourquoi il a été nécessaire de construire la laïcité. Mais en fait, vous avez eu pendant des siècles un pouvoir spirituel qui s'est appuyé sur le pouvoir temporel pour chasser les hérétiques, pour les condamner, pour les tuer, etc. etc. L'Inquisition, ça a été confié aux dominicains et aux franciscains. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition, c'était une forme de prédication. Quand, pendant les guerres de religion, les protestants brûlaient des curés, c'était aussi une forme de prédication, c'était pour montrer que les curés, tout sacrés qu'ils étaient, brûlaient aussi bien que les autres. Oui, et oui. La Saint-Barthélemy, c'était pour purifier le royaume du sacrilège de la présence protestante, etc. C'est-à-dire mais si vous voulez, il faut voir ça. Bon, pendant des années, vous avez eu des milliers de morts sur les routes sans que... on s'en soucie beaucoup, hein. Et c'est depuis quelques années qu'on dit qu'il faut quand même les diminuer, et de fait qu'on arrive à les diminuer. Mais pendant des années, vous aviez chaque année des milliers de morts sur la route, et bon, bien sûr, il y avait quelques personnes que ça choquait, notamment les gens qui les soignaient, mais au niveau social, ça ne choquait pas. Il y avait une grande tolérance, hein, au fait que la voiture fasse des milliers de morts, bon, etc. C'est-à-dire que chaque époque à les morts qu'elle tolère. Et puis, mais à une autre époque, ça devient intolérable. Et bien, l'époque à laquelle c'est devenu intolérable, je regrette, c'est quand même l'époque des Lumières. Ça, c'est un constat historique. Bon. Si vous voulez, ce que Sarkozy aurait pu dire au Vatican, au Latran, c'est bon, il aurait pu s'appuyer sur la repentance que Jean-Paul II lui-même a fait pour justement des siècles de chrétienté. Hein, et bon, évidemment, il était le pape, il est à Rome, il n'allait pas dire des choses trop désagréables, mais là, il pouvait s'appuyer justement sur un discours de repentance que le pape Jean-Paul II a fait lui-même, et donc dire, ben oui, vous reconnaissez vous-même que vous avez fait des bêtises et que vous avez voulu dominer le pouvoir temporel ou se servir de lui, l'inquisition, etc. Il aurait pu dire, nous aussi, on a fait des grosses bêtises, et Philippe le Bel, en mettant les papes à Avignon, en voulant contrôler la papauté, c'était typiquement la bêtise du pouvoir politique qui voulait instrumentaliser le pouvoir religieux. Et voilà, et ce qui, malgré tout, fait que l'un et l'autre fassent moins de bêtises, c'est la laïcité, je regarde. C'est la laïcité, et la laïcité, c'est une production moderne. C'est pas quelque chose qui existe depuis 20 siècles de christianisme, historiquement.
Là, c'est une première chose. Mais je prétends voir que les préceptes du siècle de Lumière sont tout à fait des préceptes évangéliques.
Mais chaque religion peut retrouver dans son corpus de textes sacrés des choses où elle pourra dire que bon, ben, la laïcité, effectivement, est en accord avec ce qu'elle a toujours dit. Ça, bon, moi, ça ne me gêne pas, mais... Si vous voulez, c'est maintenant qu'on le dit quand même. Il faut bien voir que c'est maintenant qu'on le dit. On ne l'a pas dit à d'autres époques.
Non, j'entends bien. Il n'est pas question en ce qui me concerne de faire le procès de la laïcité, mais je fais le procès d'une religion laïciste.
Oui, mais si vous voulez, là, votre première question, et là, moi, ce que je vous ai répondu, c'est le fait que, historiquement, la laïcité est quand même sortie d'une démarche d'émancipation d'une société de chrétienté, si vous voulez. Elle ne s'est pas faite contre le christianisme, mais elle s'est quand même faite contre la société de chrétienté. Et elle s'est faite par des gens qui ont été des malpensants. Certains ont été athées, d'autres ont été hérétiques, d'autres ont été à la limite, disons, de l'hérésie de l'orthodoxie, etc., etc., mais elle s'est faite en gros quand même par des malpensants, par des francs-tireurs, elle n'est pas venue d'une décision ni du pouvoir temporel, ni du pouvoir spirituel. Elle est venue par, malgré tout, une démarche critique, une démarche de contestation, une démarche, etc. Bon. Et voilà. On ne peut pas trop vite, si vous voulez, dire « bon, mais finalement, il n'y a rien de nouveau sur le soleil ». Il y a quand même toute une construction historique qui fait que les guerres de religion au XVIe siècle, c'était assez logique. Et bon, bien sûr, ça a pris un aspect de massacre qui, au bout du compte, a choqué. Mais au départ, ce n'était pas tellement choquant qu'on s'entretue pour des questions de religion. Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, ça devient beaucoup plus choquant. Vous avez une évolution de la mentalité qui fait que ça devient beaucoup plus choquant. Et que du coup, on se dit, il faut trouver quelque chose pour arrêter ça. Et que peu à peu, du coup, on invente... Bon, en France, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que le premier élément de laïcité est pris sous l'Ancien Régime en 1787, quand on autorise le mariage civil des protestants. Parce qu'il y avait un problème qui était insoluble, puisque les enfants de protestants qui se mariaient dans le désert avec des pasteurs, etc., étaient des bâtards. Bon. Et donc ça faisait un problème de société, notamment pour la bourgeoisie, quand il y avait des biens à transmettre, etc. Eh bien, on accepte un état civil des protestants, c'est-à-dire qu'on laïcise l'état civil pour les protestants. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi on laïcise l'état civil ? Parce qu'on ne veut pas reconnaître la légitimité des pasteurs. Et donc on ne veut pas reconnaître le mariage que font les pasteurs. Autrement dit, faute d'admettre le pluralisme religieux, ce qui était la solution des autres, de la plupart des autres pays européens, il y avait déjà un pluralisme consistant en Allemagne, par exemple. C'est idiot de dire que le jus regio et jus religio, c'était la répression, c'est pas vrai. Peu à peu, ça a été la tolérance, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer là maintenant, mais qu'on pourrait expliquer. Mais la France, finalement étant assez rétive à l'égard du pluralisme, a été obligée d'inventer finalement une solution qui s'est révélée plus moderne. Bon. Mais qui est née comme ça. Et quand on a généralisé l'état civil et le mariage civil, c'était aussi parce que l'Église catholique était coupée en deux. Il y avait une Église constitutionnelle, une Église réfractaire. La moitié des... En gros, c'était moitié-moitié. Et que c'était uniquement les prêtres qui avaient accepté la constitution civile du clergé qui pouvaient marier légalement et légitimement et enterrer légalement et légitimement, etc. Et que la moitié de la population devenait maintenant des gens qui se mariaient de manière illégale, etc. Et donc là aussi, il y avait un problème à résoudre. Là aussi, il y avait un problème à résoudre. Alors, où on acceptait la division de l'Église catholique en deux et on mettait sur le même pied l'Église réfractaire et l'Église constitutionnelle, où on laïcisait, on a préféré laïciser une fois de plus, c'est-à-dire que là encore, on était rétif à l'égard du pluralisme, et on a laïcisé comme solution, disons, au problème qui se posait et qu'on n'arrivait pas à résoudre autrement. Donc voilà, ça, c'est aussi des pratiques sociales, si vous voulez, qui ont répondu à des problèmes précis. C'est pas tombé du ciel, la laïcité. Bon, alors, effectivement, maintenant, des croyants, et moi le premier en tant que protestant, je dirais, bien sûr que ça me paraît quelque chose de tout à fait évangélique. Mais si vous voulez, comme historien, je dois dire comment ça s'est fait historiquement, et ça s'est pas fait historiquement par une application sociale de l'évangile. Ça s'est fait historiquement de manière beaucoup plus compliquée, et beaucoup plus... Et ça s'est fait au moment d'une certaine modernité politique.
Si nous reprenons l'histoire de la construction de la République et de l'organisation de la laïcité, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même souvent une certaine ingratitude de la République par rapport à la contribution des protestants? Quand on regarde un peu plus près l'histoire du protestantisme, au moment de 1789 et bien après aussi, sous la Troisième République, les différentes composantes de la société protestante ont beaucoup œuvré, ont beaucoup contribué, la communauté judaïque aussi, les juifs et les protestants, ont beaucoup contribué à cette construction de la République et de la laïcité. Aujourd'hui, on n'entend presque pas cette gratitude. Il y a un petit silence sur cette immense contribution de cette petite minorité dans la construction de la République française. Que pensez-vous de ces silences et ce sentiment peut-être d'ingratitude qu'on pourrait avoir?
Alors, si vous voulez, là, c'est un peu compliqué parce que par certains côtés, ce que vous dites est vrai, et vrai aussi pour les Juifs. Hein, et c'est vrai qu'en France, il y a une difficulté à bien percevoir les minoritaires. Justement, c'est ce que j'ai expliqué en disant aussi qu'on n'avait pas réussi à assumer finalement le pluralisme. Mais d'un autre côté, il faut bien voir que la France est un pays où finalement tout le monde a été persécuté à un moment ou à l'autre. Et oui. Les libres penseurs, les athées, etc., ils ont été persécutés. Alors, bon, il y a quelques personnages emblématiques comme le chevalier de la Barre, etc., mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas connus. Bon. Les protestants, effectivement, la Saint-Barthélemy, la révocation des édits de Nantes, le fait que, au XIXe siècle, ils ont dû se montrer à la fois très entreprenants et très discrets. Bon, les juifs ont été chassés pour chasser, etc. Il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu Vichy, etc. Les catholiques eux-mêmes, au moment de la Révolution française, malgré tout, il est arrivé un moment où, justement, être catholique, c'était être suspect de terrorisme, hein, le seul fait d'aller à la messe, etc. La loi dont j'ai fait allusion contre les congrégations religieuses est une loi qui maintenant serait tout de suite retoquée par la Cour européenne des droits de l'homme, bon, etc., etc. Autrement dit, chaque communauté peut avoir ses blessures, si vous voulez. Chaque communauté peut avoir ses blessures, et du coup, ne soyons pas dans le ressentiment et essayons justement de construire quelque chose ensemble, que chacun dépasse ses blessures, si vous voulez. Chaque communauté peut avoir bon droit à avoir ses blessures. Moi, je ne voudrais pas apporter de l'eau, si vous voulez, au moulin d'une victimisation. C'est-à-dire que ce que vous dites est juste historiquement, mais à mon avis, c'est une situation à dépasser. Alors d'abord, c'est aussi aux protestants eux-mêmes de rappeler que, sereinement et sans orgueil, mais de rappeler qu'effectivement, ils ont, au moment de la loi de laïcisation de l'école, on en trouve, au moment de la séparation des églises et des États, on en trouve, etc. C'est-à-dire d'être capable de dire de manière sereine, si vous voulez, à l'ensemble de la communauté française, la participation qu'ils ont eue, hein, c'est la charité bien ordonnée commence par soi-même, je crois qu'on peut le dire. Bon. Mais en même temps, le terme d'ingratitude me gêne parce que c'est se mettre un peu en victime. Et...
Ou alors de non-reconnaissance, oui. Une absence de reconnaissance.
Mais vous voyez, je crois qu'il faut, il faut le faire dans une insistance justement sur la pluralité des contributions à la construction de la France, hein, et en montrant bon, ce que je vous ai dit par exemple sur l'histoire que l'Église catholique avait béni les chemins de fer. Bon, c'est très peu connu, et la vision habituelle c'est l'Église catholique s'est opposée au progrès, etc. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça, il faut beaucoup plus serrer les problèmes, etc. C'est-à-dire que on a un ensemble de visions historiques qui sont des mémoires militantes les uns et des autres, et dans ces mémoires militantes, on a tendance toujours à croire que à ne pas reconnaître l'autre et à ne pas reconnaître la contribution de l'autre. Bon. Et donc le dépassement aujourd'hui, c'est arriver à pouvoir faire une histoire où tout le monde soit mieux reconnu. Bon, alors, si vous voulez, si vous allez aux Antilles, ça va être toute l'histoire de l'esclavage, hein, et du fait qu'on a... Alors moi, je pourrais vous raconter des trucs aussi sur parce que j'étais conseiller de la ministre Ségolène Royal au moment des 150 ans de l'esclavage. Bon. Et alors c'était extraordinaire, parce qu'on fêtait les 150 ans de l'esclavage, mais il y avait une association qui s'appelait la lutte contre l'esclavage moderne qui n'avait pas trouvé des subventions. Et moi, c'est un des coups de sang les plus importants que j'ai eu de ma vie, parce que évidemment j'avais fait une note tout à fait favorable pour que la ministre donne des subventions, la ministre était d'accord pour donner des subventions, etc. Et l'administration sapait ça, et il y avait toujours une pièce qui manquait dans le dossier, et du coup il n'y avait jamais de subvention, soi-disant, parce que le dossier n'était jamais parfait, n'était jamais complet. Bon. Donc j'ai pris un coup de sang terrible et j'aurais dit que c'était en fait un sabotage politique, etc. Ils se sont plaints à la ministre m'a couverte, etc. Finalement, ils ont eu leur subvention. Mais tout le monde m'a dit, mais pourquoi ils n'avaient pas de subvention? Ben, parce que parmi les gens que combattent cette association contre l'esclavage moderne, il y a des diplomates. Hein, il y a des diplomates, donc on s'attaque à forte partie. Bon. Donc voilà, on célèbre les 150 ans de l'esclavage, mais voilà, on n'arrive pas à lutter contre l'esclavage moderne parce qu'il y a des puissants, il y a des... Bon. Donc voilà, il faut dépasser un peu toutes ces histoires pour aujourd'hui se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour pouvoir nous reconnaître mutuellement et pour qu'il n'y ait plus les victimes qu'il y a eu dans le passé, si vous voulez. Et donc dépasser un peu la victimisation passée pour aujourd'hui se dire comment faire pour faire une société sans trop de victimes. Hein, sans trop de victimes. Et ça, c'est très difficile. Bon. Et moi, je me méfie beaucoup actuellement quand même des replis dans le passé. Tout le monde un peu se replie sur ses racines, tout le monde se replie un peu sur le passé. Moi, je suis historien, donc ça ne devrait pas me déplaire, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est parce que l'avenir est devenu très incertain, l'avenir est devenu très difficile, etc. Et donc il y a une majoration un peu de ce qui s'est passé, alors que ce qui s'est passé, c'est aussi ce dont on doit s'affranchir pour pouvoir construire un avenir. Et un avenir qui sera forcément différent du passé. Et donc, vous voyez, moi je suis plus intéressé à essayer de voir comment construire cet avenir plutôt que... alors, bien sûr, cet avenir, c'est pas la négation du passé, et donc, effectivement, on peut aussi parler du passé. Mais en fonction aussi, quand même, du fait que notre première tâche, c'est d'arriver à construire ensemble un avenir. C'est ça qui me semble, socialement, si vous voulez, le plus important. Au niveau d'une laïcité narrative, c'est le plus important. Alors après, cette laïcité narrative assume son passé et en parle, très bien. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Et si vous voulez, justement, en ayant le moins d'impensé possible, le moins de silence possible, et en faisant le moins de victimes possible.
Eh bien, merci. On ne se lasserait pas d'écouter le professeur Jean Romero, qui j'ai l'impression que lui, il ne pourrait ne pas s'arrêter. On sent qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire.